Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir,
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
C'est un plaisir de vous retrouver pour votre grand journal sur Europe 1, de l'info en direct, l'analyse, le débat évidemment avec nos invités. Mobilisés à 18h15, la grève se renforce et les profs dans tout ça. Bernadette Groison de la FSU, premier syndicat de l'enseignement, sera avec nous. 18h30, on va en entendre parler du fameux service minimum dans les transports. N'était-ce donc qu'un doux rêve? Le président des sénateurs républicains Bruno Retailleau milite pour des réquisitions. 18h50, une chanson dans la tête.
Tout le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat quand il est cat retombe sur ses pattes.
Fabien Lecoeuvre revient sur l'incroyable succès des dessins animés Disney des Aristochats. À Blanche-Neige, la Reine des Neiges 2 a déjà attiré 4 millions de spectateurs en quelques semaines au cinéma. 19h30, on se retrouve pour le grand débrief de l'actu sur les grands sujets du moment avec le député et porte-parole La République En Marche Hervé Berville et le journaliste Atlantico Jean-Sébastien Ferjou. Voilà pour une partie de votre sommaire. Je vous souhaite la bienvenue sur Europe 1. En attendant, voici le journal de Florence Cohen. Bonsoir Florence.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Car il est 18h.
Oui, 18h, bonne fin de week-end à tous.
Vendu comme des petits pains. Sur la semaine, on a multiplié par 4 le nombre de vélos vendus et donc on est débordé clairement.
Le vélo pour pallier le manque de transport. Demain, la grève continue. Prévoyez un TGV et un train de banlieue parisienne sur 5, 3 TER sur 10 et 10 lignes de métro fermées.
Pendant ce temps, les consultations vont bon train justement au sommet du pouvoir. Emmanuel Macron réunit ses ministres ce soir, 3 jours avant les annonces fatidiques d'Edouard Philippe sur les retraites.
L'île de Mayotte en alerte rouge, elle attend le cyclone Belna dans la soirée. Les habitants sont confinés chez eux.
On va tous aller se réfugier dans une pièce de la maison et attendre que ça passe.
Une statuette vieille de 23 000 ans, découverte à Amiens. Elle ne mesure que 4 cm, mais elle est pleine de symboles.
L'hypothèse qui est actuellement avancée, c'est que c'est une expression symbolique de la femme et plus particulièrement de la fécondité.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, à l'écoute de votre grand journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Alors que les grosses perturbations dans les transports vont se poursuivre, des réunions tous azimuts à 3 jours de la présentation par Édouard Philippe des grandes lignes de la réforme des retraites.
La majorité conviée demain à l'Élysée. Les principaux ministres concernés sont en ce moment à Matignon avant d'être reçus par Emmanuel Macron.
Alors Jean-Rémy Baudeau, vous suivez ces conclaves en cascade pour Europe 1. Là, on en arrive vraiment aux derniers arbitrages.
Oui, Florence, réunion depuis environ une heure à Matignon. Autour d'Édouard Philippe, seuls quelques ministres pour les derniers arbitrages, les dernières tractations, les derniers réglages de cette réforme. Une réunion de travail qui vient clore un week-end de consultation. Direction ensuite l'Élysée pour un point interministériel un peu plus élargi autour du président Macron. Aucune communication officielle n'est attendue, mais l'idée est de préparer l'ultime rencontre de demain avec les partenaires sociaux. Au plus haut sommet de l'État, on sait que les prochaines heures seront décisives, mais on se montre déterminé. Malgré la pression de la rue, la réforme ne peut être remise en cause, explique-t-on à Matignon. L'entourage du Premier ministre le martèle, il y a encore des choses à négocier, notamment sur les transitions ou la pénibilité. Sans banaliser le mouvement social, l'exécutif tente donc de dérouler son calendrier. On ne fait pas une réforme des retraites sans mettre les gens dans la rue, rappelle régulièrement le Premier ministre en privé.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Alors l'opposition sort du bois, elle réagit à cette réforme encore attendue. À gauche notamment, Martine Aubry dénonce sa brutalité.
Et à droite, Xavier Bertrand tacle l'amateurisme du gouvernement. Éric Woerth, lui, député Les Républicains qui avait mené la réforme des retraites en 2010, dénonce autant le fond que la méthode.
On ne peut pas laisser les Français dans une telle incertitude. Ouais. L'incertitude, ouais. C'est de créer, au fond, l'inquiétude et le stress dans la société française pour rien. Cette réforme, elle n'est pas telle qu'elle est conçue, elle est inutile. Elle est inutilement stressante. Il y a des choses à faire, une pénibilité plus comprise, un régime universel uniquement sur la base, permettant aux autres, aux professions au fond autonomes, de définir leurs propres conditions à un moment donné. Ça, c'est juste et c'est équitable. Ce n'est pas un jardin à la française où aucune tête ne doit dépasser. Heureusement, je pense que ce n'est pas le cas d'une société moderne comme la France. Donc on voit bien que le pays est chamboulé et c'est plus très bien sur quel pied danser. Au fond, la France est un peu au bord de la crise de nerfs.
Éric Woerth, grand rendez-vous ce matin, grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Sur le plan pratique maintenant, une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi. Mais ce sera encore très difficile dès demain dans les transports. Encore plus que ces derniers jours, certainement, puisque les salariés ne peuvent pas poser des RTT et télétravailler indéfiniment.
Bien sûr. En plus, il y aura peut-être, Florence, les enfants à garder si les enseignants sont en grève. Et on en parlera de l'école dans 10 petites minutes maintenant sur Europe 1. Alors, on fait le point sur ce qui attend les usagers des transports demain, justement. Caroline Baudry, avec vous.
Eh bien, une journée noire est attendue demain. Le service sera un peu mieux qu'aujourd'hui, mais insuffisant pour transporter tous les voyageurs attendus un lundi. Un TGV sur 5 circulera, les TER au ralenti, puisque 3 trajets sur 10 seront assurés essentiellement par des bus. Attention, dans les gares et les stations franciliennes, le réseau risque d'être saturé. Les RER seront extrêmement perturbés. 10 lignes de métro sur 16 restent fermées. Un service minimum est assuré sur 4 lignes de métro et les RER A et B qui circuleront uniquement aux heures de pointe. Tous les voyageurs sont sans surprise invités à se déplacer autrement. Exceptionnellement, les véhicules partagés par au moins 3 personnes seront autorisés demain à circuler sur les voies réservées aux bus et taxis, sur les autoroutes autour de Paris. Et pour inciter au covoiturage, les trajets proposés par 5 plateformes seront gratuits demain pour les passagers.
Merci pour ces prévisions. Caroline Baudry pour Europe 1. Et comme il faut bien trouver des solutions pour aller travailler demain, vous allez être nombreux, malgré le froid, à ressortir votre vélo. Dans les magasins de sport, les clients se précipitent pour être bien équipés. Reportage d'Hélène Terzian.
Un truc pour dérouiller mon vélo, ne l'ayant pas sorti depuis les beaux jours, je me retrouve contraint de le ressortir avec les grèves.
Avec sa bombe anti-rouille en main, Martin va pouvoir huiler ses chaînes et dès demain enfourcher son vélo pour aller travailler. Un trajet de 20 minutes au lieu de 50 minutes de marche.
Là forcément, il fait un peu plus froid, donc j'étais un peu plus paresseux. Et en plus, si je sors après le travail, je me retrouve assez vite contraint et je dois trouver une solution pour rentrer. Et donc ça finit en Vélib, mais il faut en trouver un disponible. Donc avoir son propre vélo, forcément, ça facilite la tâche.
Depuis la veille de la grève, les clients comme Martin affluent en rayon. Ils s'équipent en casque, en antivol, viennent changer leurs roues. Et avec le mouvement parti pour durer plusieurs jours, ils n'hésitent pas à investir 200 euros dans un vélo, raconte Robin, le vendeur.
Ça s'est vraiment vendu comme des petits pains. Sur la semaine, on a multiplié par 4 le nombre de vélos vendus. Et donc, on est débordé, clairement. C'est très impressionnant. On doit même, des fois, donner des petits cours de sécurité, apprendre aux gens à se rééquilibrer, en tout cas, se placer sur la route. Il faut qu'ils puissent se déplacer pour les travailler. C'est 5, 10 km, 15 km, c'est faisable à vélo.
Une telle ruée sur les vélos, ça s'est rarement vu, si ce n'est pendant les grèves de 95, poursuit-il. À l'époque, des collègues apprenaient même aux clients à faire du vélo dans les rayons.
Notez que le ministre de l'économie recevra les représentants des commerçants la semaine prochaine. Ils sont inquiets de l'impact des grèves sur leur chiffre d'affaires de Noël. Bruno Le Maire qui, par ailleurs, exclut tout coup de pouce au SMIC au-delà de l'augmentation automatique du 1er janvier.
18h06, la suite du journal sur Europe 1, Wendy Bouchard, Florence Cohen.
Parlons de Mayotte désormais. Mayotte placée en alerte rouge en attendant l'arrivée du cyclone Belna.
Il devrait, ce cyclone, passer au plus près de l'île française dans les minutes ou les heures qui viennent. Les habitants ont été invités à ne surtout pas sortir de chez eux et à faire des stocks d'eau. Sophie Echen, quelle est exactement la situation sur place?
Eh bien, actuellement, l'île est coupée du monde. L'aéroport est fermé. Tous les vols sont annulés, tandis que les liaisons maritimes entre Petite Terre et Grande Terre sont interrompues. Les rafales devraient commencer à souffler d'ici une heure. En ce moment, les habitants sont confinés chez eux, comme Aminati, qui vit près de Mamoudzou.
C'est vraiment le calme avant la tempête. Ça a été conseillé de préparer une pièce vraiment avec tout ce qui est nécessaire. Donc eau, piles, radio, des denrées alimentaires et de s'enfermer dans cette pièce-là. Donc à partir de 21h, on va tous aller se réfugier dans une pièce de la maison et attendre que ça passe.
Sur place, les secours ont reçu des renforts extérieurs. 70 sapeurs-pompiers venus de métropole et 40 du département voisin de La Réunion. Les communes se tiennent prêtes, assure le sergent Ahmed Alaoui Abdoul Karim. Il est sapeur-pompier à Mayotte.
Les écoles sont ouvertes, les gymnases, tous les établissements publics pour pouvoir accueillir le plus de personnes qui habitent dans des zones vulnérables. La gendarmerie a procédé à des évacuations dans certaines communes, mais au niveau de la population, les consignes ont été claires, c'est de rester chez soi et ceux qui ont des abris précaires, de se déplacer vers les lieux d'accueil mis en place par les communes.
Les vents pourraient souffler jusqu'à 200 km/h. Ce sont les zones côtières qui sont les plus exposées. On attend une forte houle et un risque de glissement de terrain.
Et on suit évidemment cette situation à Mayotte avec vous, notamment Sophie Echen. L'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas en Ardèche a redémarré ce matin. Il était à l'arrêt depuis le tremblement de terre du 11 novembre, 5,4 sur l'échelle de Richter.
Allez, on en vient maintenant à cette découverte peu banale. Hein. Une statuette de 23 000 ans a été retrouvée à deux pas d'une zone d'activité commerciale à Amiens. Et cette Vénus du Paléolithique est tout sauf imposante, hein, Laure d'Autriche. Vous êtes allée la contempler à Amiens pour Europe 1.
À 4 mètres de profondeur, les archéologues sont tombés sur cette statuette blanche de 4 petits centimètres. Un objet rare, emblématique de la préhistoire. Une figure féminine, nue et plantureuse, mais sans traits sur le visage, explique Clément Paris, archéologue à l'INRAP.
Le but du sculpteur ou de la sculptrice a été de mettre en avant les attributs féminins. Donc on a des formes opulentes. L'hypothèse qui est actuellement avancée, c'est que c'est une expression symbolique de la femme et plus particulièrement de la fécondité. Tous les détails que l'on voit sur cette statuette nous montrent un savoir-faire vraiment important, donc avec des incisions de l'ordre du millimètre, avec un objet en silex.
Cette statuette vieille de 23 000 ans a été gravée dans un bloc de craie par un groupe de chasseurs-cueilleurs qui a installé ici son campement au milieu des chevaux et des mammouths. Et le site a été très bien préservé, précise le président de l'Institut de recherche archéologique, Dominique Garcia.
Le site était découvert sous 4 mètres de limon. Ça en fait une sorte de petit Pompéi du Paléolithique, un endroit qui n'a pas été remué, qui n'a pas été bouleversé. Et donc tous les vestiges sont lisibles par les archéologues.
Cette statuette est un objet rare, dit ce spécialiste. C'est le genre de document que l'on retrouvera dans les manuels scolaires.
Et voilà, comme quoi on peut être tout petit et très imposant.
4 cm, ça fait une petite fève. Hein.
Exactement.
Tout petit, vraiment. Merci beaucoup, voilà. Florence Cohen. C'était un plaisir et à très bientôt sur Europe 1.
À bientôt.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcadB vous présente la météo.
Météo venteuse, ça a soufflé toute la journée sur le nord de la France, en particulier le long de la Manche. Et le vent se renforce encore, Valérie Darmon, demain.
Effectivement, et c'est dans la nuit que l'on attend les plus violentes rafales de vent sur les côtes de la Manche, entre 100 et 110 km/h, localement 120. Ces vents violents qui sont accompagnés d'un front pluvieux très actif. Et il est aussi prévu jusqu'à 10 mètres de houle en mer d'Iroise. Et heureusement, les coefficients de marée sont faibles. Sur les côtes atlantiques, le vent soufflera entre 90 et 100 km/h. Dans les terres, c'est-à-dire du sud-ouest au nord, entre 70 et 80. Et puis la tramontane va aussi se lever sur le Roussillon avec des rafales à 100 km/h. Dans les heures qui viennent. Ce lundi, le vent soufflera toujours fort en matinée sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique avec des rafales jusqu'à 110 km/h et entre Corse et continent jusqu'à 120. La neige tombera aussi abondamment dès 1000 mètres d'altitude sur l'est avec un vent très fort sur les crêtes mais surtout sur les Alpes du Nord où une tempête de neige est attendue au-dessus de 1300 mètres. Voilà le programme.
Merci Valérie Darmon. On refait bien sûr un point à 18h30 sur Europe 1. À suivre Wendy Bouchard.
On a parlé des conséquences de la grève sur les transports. Envisageons maintenant ce mouvement social qui va bloquer un certain nombre de crèches et d'écoles dès mardi. Les parents contraints de s'organiser et les syndicats mobilisés. Nous sommes avec Bernadette Groison de la FSU. A tout de suite.
18h13, on retrouve Wendy Bouchard pour la suite du Grand Journal du soir sur Europe 1. Avec les professeurs de nouveau appelés à la grève ce mardi.
Oui, une journée de contestation et de manifestation que vous avez votée vendredi en réunion intersyndicale avec vos collègues de la CGT et de Force ouvrière notamment. Bonsoir Bernadette Groison.
Bonsoir.
Vous qui êtes secrétaire générale de la FSU, première fédération syndicale de l'enseignement. Jeudi dernier, on comptait 55% de profs en grève, 78% à Paris. Vos perspectives pour Paris et pour mardi sont-elles les mêmes, Bernadette Groison ?
Et écoutez, nous avons lancé, dans le cadre, comme vous le disiez, de l'intersyndicale, cette nouvelle journée de grève et de mobilisation parce que les enseignants ne comptent pas en rester là, ils ne veulent pas en rester là. Moi, je ne peux pas vous dire là aujourd'hui exactement quel sera le chiffre de mardi, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une détermination dans le monde de l'éducation et bien sûr particulièrement pour les enseignants à poursuivre ce mouvement parce que les réponses du gouvernement suite à ce 5 décembre qui a été massif et inédit, ne sont pas à la hauteur de ce que nous avons dit le 5 décembre.
Parce que les enseignants que vous représentez ont peur qu'à côté des salaires qui ne sont pas à la hauteur de leur mission, cette nouvelle réforme rabote encore les pensions. Je crois que cette inquiétude, vous l'avez franchement discutée et évoquée avec Jean-Paul Delevoye d'ailleurs.
Oui, nous n'arrêtons pas de dire, parce que nous le savons depuis le début des discussions avec Jean-Paul Delevoye, que ce nouveau système des retraites pénaliserait particulièrement les fonctionnaires et notamment les enseignants. Parce que nouveau calcul, non plus sur les 6 derniers mois, mais l'ensemble de la carrière, c'est mécaniquement baisser le niveau des pensions.
Oui.
Et l'idée du gouvernement d'intégrer les primes ne rattrape rien pour les enseignants, qui, comme d'autres fonctionnaires, par exemple les agents de catégorie C, n'ont quasiment pas de primes. Donc nous avons un problème mécanique de baisse du niveau des pensions, mais qui est lié aussi à la faiblesse des salaires. D'ailleurs, le rapport du COR le dit très bien. Nous avons un problème dans la fonction publique qui est le blocage du gel de la valeur du point d'indice, mais aussi le manque de création d'emplois qui n'assure pas le financement des retraites pour les fonctionnaires. Donc nous avons deux problèmes. Nous avons le problème de ce nouveau calcul que pourrait être celui des pensions qui ne va pas aujourd'hui, auquel le gouvernement ne donne pour l'instant aucune piste de de réponse. Mmh. Et nous avons la faiblesse des salaires qui alimente ce problème.
On a du mal. Bernadette Loison.
Sur les deux sujets, le gouvernement ne répond pas.
Alors, en face, on a l'assurance quand même de Jean-Michel Blanquer, qui est assez catégorique d'ailleurs à votre égard, qui dit non, les fonctionnaires ne seront pas perdants dans ce nouveau système. Il a envoyé mardi une lettre à tous les professeurs de France dans laquelle il s'engage à garantir le niveau de pension. Donc ces mots pour vous n'ont aucune valeur, Bernadette Loison.
C'est parce qu'on est dans l'affichage et les intentions. Écoutez, le 25 avril dernier, Emmanuel Macron dit « Compte tenu de ce que nous voulons faire, nous devons revaloriser les enseignants ». Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre, il n'y a rien eu de mis sur la table par le ministre, de concret, de précis, pour dire techniquement comment nous faisons. Donc, vous comprendrez que du coup, pour nous, oui, nous sommes sur des déclarations de principe. Le gouvernement dit on va mettre 400 millions, mais 400 millions pour faire quoi? Uniquement pour ceux qui, on ne sait pas à quelle date, auront affaire au nouveau système de retraite, et donc quid de la revalorisation qu'attendent les enseignants, et quid techniquement de cette mesure de compensation que le gouvernement envisage dans sa propre forme.
Donc,
vous conviendrez que c'est un peu quand même surprenant, un gouvernement qui n'a même pas encore commencé à dire ce que serait sa réforme, et puis on a un problème avec 20% d'emplois en France des fonctionnaires, et particulièrement avec les enseignants, il faut qu'on cherche à corriger notre propre réforme. C'est assez incompréhensible quand même.
On peut comprendre votre mobilisation. À minima, donc, vous souhaitez que cette réforme, si on passe au système par points et à cette nouvelle réforme, soit adossée à des corrections pour votre carrière, au maximum, la revalorisation des barèmes de salaire vous paraît évidente.
Nous, soyons clairs, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement mette tout le monde sur la table parce qu'on pense que ce système à points n'est pas bon. Mmh. Et d'ailleurs, pour l'instant, le gouvernement ne fait pas la démonstration du contraire. Donc, on veut que cette réforme soit remise totalement à plat. Nous ne voulons pas d'un système de retraite à points, mais par contre, nous voulons discuter de l'avenir des retraites parce que déjà aujourd'hui, il y a de grandes inégalités, il y a une baisse des pensions pour les retraités qui sont à la retraite et qui partent à la retraite. Donc le statu quo ne nous va pas. Donc nous avons mis beaucoup de propositions, vous savez, sur la table de Jean-Michel Blanquer, et des propositions très techniques de ce que nous voulons pour améliorer le système des retraites. Et c'est de cela dont nous voulons discuter. Donc le gouvernement doit entendre qu'aujourd'hui, il faut qu'il accepte de remettre à plat sa réforme et de rediscuter.
Donc vous attendrez évidemment les conclusions, la présentation mercredi d'Edouard Philippe, sous peine de voter une nouvelle journée de mobilisation, j'imagine. Les 900 000 enseignants de France sont à l'écoute, évidemment. J'aimerais que vous nous disiez quand même un mot aux parents qui, pour le coup, nous écoutent aussi ce soir. On n'avait pas un service minimum d'accueil garanti dans la majorité des écoles et des crèches de France jeudi dernier. Que leur dites-vous ? Pour peut-être qu'ils vous comprennent davantage.
Nous comprenons bien les usagers en règle générale et les parents, ce qui concerne les écoles, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et vous savez, je peux vous dire que pour des enseignants et pour les enseignants dans les écoles primaires à cette période de fin d'année où quand même il se passe beaucoup de choses au moment des fêtes dans les écoles, c'est très douloureux et très difficile aussi de se mettre en grève. Déjà, on perd sa journée de travail et on sait très bien que c'est compliqué et pour les enfants et pour les familles. Et je crois que, et quand je vois les sondages et ce que dit l'opinion, la manière dont elle regarde ce mouvement, je crois que les parents comprennent la revendication qui est celle des enseignants d'être mieux reconnus déjà aujourd'hui, qu'ils comprennent les inquiétudes des enseignants mais des salariés globalement face à un système de retraite qui va quelque part encore créer des inégalités et réduire les pensions et d'ailleurs celles des parents aussi. Donc je pense que les parents comprennent très bien ce mouvement et je crois qu'ils savent très bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que les enseignants font cela. Je pense qu'ensemble sur le terrain on travaille pour que les choses se passent du mieux possible.
Votre message est passé, Bernadette Loison, secrétaire générale de la FSU, première fédération syndicale de l'enseignement, et donc nouvelle journée de manifestation des professeurs un peu partout en France mardi. Merci Bernadette Loison.
Il est 18h20, à ne pas manquer sur Europe 1, le journal des sports, Wendy.
Il arrive Christophe Lamar pour nous parler foot, Champions Cup de rugby et mondial de hand féminin. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Avec les sports, bonsoir Christophe Lamar.
Bonsoir Wendy.
Et à la une ce soir.
La suite de la 17e journée de Ligue 1, Nantes-Dijon en ce moment. Loïc Folio en direct dès le début de ce journal des sports. La Champions Cup de rugby, duel franco-français entre le Stade Toulousain et le Montpellier HR. Et puis le mondial de handball féminin. La France n'est plus dans la course, mais elle a encore un match de classement à disputer et surtout une cohésion à conserver. Ne nous fâchons pas, répète le sélectionneur Olivier Crumbles.
Et l'instant ce dimanche de la 17e journée de Ligue 1 pour commencer avec le match du moment du côté de la Beaujoire à Nantes.
Les Canaries reçoivent Dijon. La deuxième période a repris depuis une quinzaine de minutes au stade de la Beaujoire et on retrouve l'un de nos correspondants sur place, Loïc Folio. Loïc, est-ce que la balance penche plutôt côté nantais ou plutôt côté dijonnais?
Eh ben malheureusement, Christophe, toujours pas de but au stade de la Beaujoire. 0-0, le plus beau geste de la soirée pour l'instant, c'est le lancer de peluche d'avant-match au profit du Secours Populaire. Pour le reste, deux petites occasions quand même à signaler côté nantais, à chaque fois dans les pieds de Simon qui a buté sur Runarsson, le portier dijonnais. Dijon qui pour l'instant réalise la bonne opération dans l'optique du maintien. 0-0 donc entre les Bretons et les Bourguignons. Il reste encore 30 minutes dans le temps réglementaire.
Loïc Folio en direct du stade de la Beaujoire à Nantes. Loïc, que l'on retrouvera dans le journal des sports de 19h. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Reims a battu Saint-Etienne 3-1. Les Rémois remontent à la 8e place du classement. Et puis derrière cette dernière rencontre de cette 17e journée, ce soir à 21h, Marseille 2e reçoit Bordeaux 5e. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 avec cette information concernant les Marseillais. Dario Di Benedetto est forfait. Il sera remplacé par Valère Germain.
Ah, et un match à suivre en direct à vos côtés, Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Wendy.
Et vous allez reparler du PSG, ça tombe bien parce que hier le match a été renversant face à Montpellier. Il y a un joueur aussi qui a été renversant et aussi insupportable à certains égards, c'est Neymar qui a montré deux facettes de sa personnalité décidément.
Absolument, on en parlera dans nos grands débats ce soir en se demandant s'il est aussi brillant qu'il est agaçant. Mmh. C'est évidemment un très très grand joueur, mais c'est un peu Janus, vous savez, ce dieu romain, sauf que lui il est brésilien, avec ses deux visages. Le premier visage, évidemment, c'est Neymar, le très grand joueur capable de faire basculer une rencontre à lui tout seul. Ça a été le cas hier, deux passes décisives et un but en quelques minutes, absolument. Et puis à côté de ça, ce roi de l'embrouille qui est capable de provoquer, d'agacer, de chouiner, de tomber volontairement par terre, d'insulter même ses adversaires, les Montpellierains se sont plaints. Voilà pourquoi on débattra encore du cas Neymar ce soir, parce que ça fait de l'audience, parce que ça fait parler, mais aussi parce que c'est très intéressant. On ne comprend pas la psychologie Neymar.
Merci beaucoup docteur Rousseau, à tout à l'heure. Encore un mot de foot avec cette surprise en Coupe de France.
Lens éliminé au 8e tour par un club de National 3, les Sang et Or, pourtant 2e de Ligue 2, ont été battus 2-1 par Dieppe, qui évolue donc 3 divisions en dessous des Lensois. Qualification par ailleurs du Mans et du Paris FC.
On passe au rugby, Christophe, avec la Coupe d'Europe et un duel franco-français au programme de l'après-midi.
Oui, Toulouse-Montpellier, on prend tout de suite la direction du stade Ernest Vallon et on retrouve Patrick Anselmetti. Patrick, Toulouse reste intraitable à domicile. Victoire 23-9 des Toulousains.
Et oui, Christophe, et 2-3. Troisième victoire en 3 matchs de Coupe d'Europe pour Toulouse qui vient de s'imposer, comme vous l'avez dit, 23-9 contre Montpellier. Sous une pluie battante, les Toulousains ont fait preuve de beaucoup de réalisme et ont été intraitables en défense. Ils ont réussi à contrer la puissance montpelliéraine. L'homme du match, Romain Ntamack, l'ouvreur international, titularisé cet après-midi au centre, a inscrit les deux essais de la rencontre aux 36e et 50e minutes. Les autres points toulousains ont été inscrits au pied par Thomas Ramos. Montpellier, impuissant, n'a pu inscrire que 3 pénalités par Payog et Stein. Toulouse est leader de cette poule 5, Montpellier 3e.
Patrick Anselmetti en direct du stade Ernest Vallon.
On parle maintenant du handball, championnat du monde au Japon. Et les Françaises ont encore un match à jouer avant de rentrer.
Les Bleus affronteront la Hongrie demain matin à 10h, heure française. Match comptant pour la 13e place. Cela n'était pas vraiment prévu, tant cette équipe donnait l'impression de dominer son sujet et ses adversaires. Raison de plus pour débriefer à froid et au calme, répond Olivier Crumbles. Le sélectionneur en appelle à la sagesse et la lucidité. Ne cédons surtout pas à la colère.
Ce que je leur ai dit, soyez dignes de votre histoire et de tout ce qui a pu se passer depuis 4 ans. Quoi. Ça serait dommage quand même, parce qu'on est en difficulté à un moment donné, de tout remettre en cause. Et notamment sur le plan humain. Puisque, ceci dit, il y aura des décisions qui seront prises. Il y aura des décisions qui seront prises en temps et en heure, mais étant un humaniste, je souhaite qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, qu'on est capable. Il ne faudra pas qu'on fasse de démagogie dans le débriefing.
Le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball, Olivier Crumbles, les Bleus qui affronteront donc la Hongrie demain matin à 10h.
On termine avec un petit mot d'équitation.
Bien sûr, Simon Delestre remporte le Grand Prix 5 étoiles du Longines Masters de Paris. Le cavalier français a réussi 2 parcours sans faute et remporte son 2e succès de rang après le saut Hermès au printemps. Mmh. Performance qu'il réalise avec le même cheval, Hermès
Ryan.
Longines Master de Paris, nous étions partenaires de cette grande compétition qui réunissait les meilleurs cavaliers du monde. Merci, à tout à l'heure 19h, Christophe Lamar.
À tout à l'heure.
Et dans un instant, Wendy, l'essentiel de l'info suivi de la météo de Valérie Darmon avant de faire un point sur l'agenda de la semaine.
Oui, on va en entendre parler dans les discussions face au nouveau blocage des transports. Quid du service minimum ? Quelle existence en France ? C'est Bruno Retailleau qui nous répond.
Bonne fin de journée avec Europe 1, il est 18h30, la suite du Grand Journal du soir, Wendy Bouchard.
Voici un nouveau point sur l'actualité de ce 8 décembre, bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Journée à nouveau difficile demain dans les transports, le trafic SNCF sera encore très perturbé avec un TGV et un Transilien sur 5. La direction recommande aux usagers d'éviter les Transiliens de crainte d'une affluence très dangereuse dans les gares d'Île-de-France. À la RATP, 10 lignes de métro sur 16 seront fermées, grosse perturbation également dans le RER A et B. Et la semaine s'annonce décisive sur la réforme des retraites après des consultations cet après-midi à Matignon. Édouard Philippe et les ministres concernés se rendent ce soir à l'Élysée pour une réunion avec Emmanuel Macron. Mayotte menacée par le cyclone Belna, l'archipel est en alerte rouge. La population a reçu l'ordre de rester confinée. Les autorités appellent à la prudence. Le compteur du Téléthon en hausse, 74,6 millions d'euros de promesses de dons recueillies, en hausse par rapport à l'année dernière. Et il est encore temps de faire un don pour cela, le 36-37.
Merci beaucoup Sophie, à tout à l'heure. Soyez prudents sur les routes demain, la nuit prochaine notamment. Beaucoup de vent à prévoir, Valérie Darmon.
Absolument, le temps est très agité sur les trois quarts de la France au passage d'une perturbation virulente liée à une profonde dépression qu'on appelle Atiya et qui traverse la mer du Nord en ce moment. Conséquences, fortes averses, grésil au nord de la Seine jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes avec des rafales de vent à 80 km/h dans les terres et 100 en bord de mer et en montagne. Près de l'Atlantique, les averses qui seront de plus en plus espacées et les éclaircies de plus en plus présentes en ce lundi. Et en Méditerranée, Mistral et surtout Tramontane qui se lèvent et qui souffrent jusqu'à 110 km/h en rafale en Roussillon. En Corse, une véritable tempête concerne le nord de l'île et les montagnes avec des rafales à 130 voire 150 sur les caps les plus exposés. Les températures, elles vont rester dans les normales de saison en ce début de semaine avec en ce lundi des maximales entre 7 au Puy-en-Velay et 17 degrés à Nice.
Merci Valérie Darmon. Jusqu'à 20h sur Europe 1, nous sommes avec Wendy Bouchard.
Voici l'agenda de la semaine. On va en entendre parler sur Europe 1. Bonsoir Naïma Bencheman.
Bonsoir Rémi Bouchard.
Ça commence demain à Paris, un sommet sur le conflit en Ukraine.
Emmanuel Macron, Angela Merkel et Vladimir Poutine se réuniront avec le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'objectif de ce sommet en plein questionnement sur l'OTAN, trouver des solutions au conflit armé qui oppose les forces de Kiev aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine depuis 2014.
Mardi, Naïma, la loi anti-gaspillage au menu de l'Assemblée nationale sur fond de convention pour le climat, la COP25 qui se poursuit à Madrid.
C'est un objectif fort du gouvernement, atteindre les 100% de plastique recyclé dans l'Hexagone en 2025, alors que la France produit environ 5 tonnes de déchets par habitant et par an. Le gouvernement voudrait faire de ce texte un marqueur de l'écologie du quotidien et de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Mercredi, on va en entendre parler, cette exposition au Louvre et au Centre Pompidou qui célèbre les 100 ans de Pierre Soulages et lui sortent le grand jeu, le grand tableau.
Une rétrospective et une exposition pour Pierre Soulages, le peintre français vivant le plus célèbre au monde, qui fêtera ses 100 ans le 24 décembre prochain. Alors un peu comme un cadeau de Noël, le maître du noir absolu sera en pleine lumière et après Pablo Picasso et Marc Chagall, il ne sera que le troisième peintre à avoir une exposition au Louvre de son vivant.
Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir.
Eh oui, c'est le noir ou l'outre-noir, Soulages. Jeudi, on va en entendre parler les élections en Algérie et la participation sera l'enjeu crucial de l'élection présidentielle.
Absolument, car pour l'heure, ce scrutin est condamné par la rue. Depuis le 22 février dernier, une foule de manifestants se retrouve tous les vendredis dans les rues d'Alger et refuse en nombre d'aller voter pour l'un des 5 candidats à la succession de Bouteflika.
On termine avec vendredi et en musique, on en parlait samedi dernier dans une chanson dans la tête avec Fabien Lecoeuvre, c'est Vanessa Paradis qui sera en concert au Casino de Paris.
Et cela fait 30 ans que cette icône absolue de la chanson française entretient divinement une idylle avec son public. Et l'Oiseau de Paradis est de retour depuis le 29 novembre dernier avec un double album, Best of et Variations. Un opus qui retrace toute sa carrière et on se quitte avec le titre qui l'a propulsé sur le devant de la scène, Joe le Taxi.
Joe le Taxi, c'est sa vie.
Merci Naïma Bencheman. À suivre, on va en entendre parler l'interview avec le service minimum version Bruno Retailleau.
18h37, le grand journal du soir, la suite avec vous Wendy Bouchard, et on va en entendre parler de cette proposition de loi sur le fameux service minimum.
Un texte déposé lundi au Sénat par le chef de file de la droite sénatoriale, Les Républicains. Bonsoir Bruno Retailleau.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Voici ce que disait d'abord Nicolas Sarkozy en 2008, écoutez.
La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Vous vous souvenez évidemment de cette petite phrase qui avait fait couler beaucoup d'encre, Bruno Retailleau. Derrière ça, pas vraiment de réalité, 11 ans plus tard. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore essayé et qui pourrait éviter les blocages aujourd'hui et demain?
En réalité, il y a eu un texte en 2007, vous savez. C'était la volonté de Nicolas Sarkozy à l'époque. Ce n'était pas vraiment un service minimum puisqu'il s'agissait seulement d'une contrainte imposée à ceux qui voulaient faire la grève, d'informer leur entreprise 48 heures avant, c'est-à-dire une sorte de préavis pour que l'entreprise puisse à la fois informer les voyageurs et puis pour qu'elle puisse s'organiser elle-même, prendre des dispositions. Mais en réalité, en aucun cas, si c'était une première étape, mais en aucun cas, c'était un vrai service minimum. Ça fonctionne un petit peu, mais ce n'est pas du tout effectivement à la hauteur de l'enjeu parce qu'il y a quelque chose qui a beaucoup changé. C'est la part des transports en commun, des transports collectifs. On a beaucoup fait la bascule entre un mode individuel et puis le mode collectif. C'est important. Alors beaucoup de Français l'utilisent, sont dépendants des transports publics collectifs pour aller venir, mais aussi pour leur travail. Et ce que je veux dire, c'est que c'est les Français du bas. C'est pas du tout les Français du haut. Et puis, on voit bien qu'on a un enjeu aussi qui est un enjeu écologique. La France, il y a un mois, vient d'être condamnée, peu de Français le savent, par la justice européenne pour le dioxyde d'azote, parce qu'on a franchi depuis des années trop fréquemment le seuil tolérable de dioxyde d'azote. Ça, c'est le moteur de voiture. Donc, si on veut des transports publics, collectifs, qui soient fiables pour que, notamment, on soit à la hauteur de l'enjeu écologique, bah, il faut en même temps qu'ils soient réguliers et je souhaite qu'il y ait un service minimum et enfin un vrai service minimum.
Alors, quel est le sens de la proposition que vous avez déposée pour cela, Bruno Retailleau?
C'est très simple, c'est de considérer que dans une journée, on a 2 heures de pointe. On a l'heure du matin pour aller au travail et puis l'heure de retour l'après-midi. Je propose simplement qu'on concentre le matin et le soir sur ces heures de pointe, un tiers du trafic de la journée. Ça, c'est donc une première proposition. La deuxième proposition, qui a été beaucoup moins commentée, mais j'y tiens beaucoup, c'est que lorsque un train est annulé, qu'il y a du retard, eh bien, ça n'est pas normal que les usagers doivent remplir des démarches, des formulaires. Je propose qu'il y ait un remboursement automatique lorsque on paie par carte bancaire pour faciliter le remboursement justement des usagers.
Donc là, c'est une adresse que vous faites évidemment aux grandes entreprises, SNCF, RATP, avec tous les forfaits, les cartes d'abonnement. Je reviens à votre idée de créneau, service minimum sur les créneaux que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire réquisition des agents grévistes.
C'est-à-dire réquisition, c'est-à-dire que quand vous devez assurer un tiers le matin et le soir, ce que fera l'entreprise, admettons la RATP ou la SNCF, c'est qu'elle va d'abord recourir à un personnel qui n'est pas gréviste. Par exemple, demain, il y a un TGV sur 5, ça fait à peu près 20%. Donc, on mobilise ces équipes qui ne sont pas grévistes et puis on complète en réquisitionnant le complément.
Sauf que le droit de grève est constitutionnel, Bruno Retailleau. Entraver ce droit par le fait même d'une réquisition ne serait pas anticonstitutionnel, de fait ?
Non, pas du tout. Pas du tout d'abord parce que ça existe déjà. Vous savez que en France, il y a des fonctionnaires, militaires et autres qui n'ont pas le droit de grève, par exemple les policiers, mais il y en a d'autres qui peuvent être réquisitionnés. Oui. Donc, ils peuvent être réquisitionnés, c'est juridiquement correct, ce n'est pas anticonstitutionnel. Par exemple, pas seulement dans les hôpitaux d'ailleurs, par exemple Météo France. Par exemple, le service public de l'audiovisuel, par exemple, dans le nucléaire. Donc, vous avez raison, le droit de grève, il a une valeur constitutionnelle. Mais il y a un autre principe qui a la même valeur constitutionnelle, c'est le principe de continuité des services publics. Et le Conseil constitutionnel l'a rappelé à maintes reprises. Il faut donc, quand on a deux droits, il ne faut pas atteindre l'un et l'autre. Ce que j'essaie de faire, c'est précisément de trouver le juste point d'équilibre entre, d'un côté, le principe du droit de grève, qui a une valeur constitutionnelle, et puis de l'autre, un autre principe qui a la même valeur, c'est-à-dire la continuité du service public.
Alors, vous observez évidemment tous les exemples dans notre société. Je pense à celui à la RATP. Un certain nombre de cadres ont été formés pour assurer l'intérim de conducteurs, le cas échéant. Ces exemples-là sont à suivre, à multiplier, à soutenir ?
Je pense qu'ils sont à suivre, mais ils trouvent très très vite leurs limites. Parce que, par exemple, pour ce qui concerne la conduite des TGV, vous ne pouvez pas former quelqu'un de façon rapide. Je pense que ça exige de vrais professionnels. Donc le service minimum, c'est aussi un impératif. Mais encore une fois, c'est à l'entreprise, évidemment, de s'organiser. Si, pour assurer le service minimum, il y a suffisamment de personnel qui n'est pas gréviste, il n'y a pas de problème. Si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, il faut acquisitionner ceux qui veulent faire la grève. Autant je pense qu'il y a des bonnes raisons de protester, autant je pense que le droit de grève, il n'est pas illimité. Ça n'est pas le pouvoir pour quelques catégories de bloquer la France entière.
Merci Bruno Retailleau, président des Républicains au Sénat, vous-même sénateur de Vendée. Merci beaucoup.
Merci Wendy.
Des performances exceptionnelles pour une sécurité maximale, les pneumatiques Hankook vous présentent Tout roule.
Voici Tout roule, le magazine auto d'Europe 1, chaque dimanche soir avec vous Pierre Devineau. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une de Tout roule, la guerre contre les voitures puissantes. Bruno Le Maire veut déplafonner le malus jusqu'à 20 000 euros. L'essai de la semaine, c'est la Maserati Levante S qui risque du coup de passer à la moulinette. Et puis une pub EDF qui en ce moment à la télé nous ressort une vieille voiture communiste.
On commence avec le dossier de la semaine. D'abord, c'est donc le super malus qui risque d'être encore plus élevé.
Oui, Bruno Le Maire en a surpris plus d'un cette semaine en annonçant un super malus à 20 000 euros au lieu des 12 500 actuels. L'idée du ministre de l'économie, c'est de rendre justice à tous ces Français qui font en effet des efforts pour rouler plus propre. Le revers de la médaille, bien sûr, c'est la pénalisation des véhicules super premium. Patrice Duclos, le patron Europe de l'Ouest de Maserati, propose une autre méthode de calcul.
Aujourd'hui, je pense que la mesure qui est utilisée pour parler de pollution n'est pas forcément la bonne. On est dans un marché où aujourd'hui on devrait plutôt se référer à l'utilisation qui est faite de nos véhicules, par exemple. Combien de kilomètres va-t-on faire avec une Maserati qui peut dégager 190 ou 191 grammes de CO2? Combien de kilomètres va-t-on faire avec une petite voiture considérée non polluante sur le papier, mais qui en fait va peut-être faire 3, 4, 5 fois plus de kilomètres dans une année et qui au final polluera au moins, si ce n'est plus, que la Maserati qui est montrée du doigt aujourd'hui.
Voilà. Et puis les autres conséquences moins visibles, moins bling-bling, j'allais dire, qui m'ont été soulevées, notamment par les loueurs de courte durée, c'est que des engins comme les minibus 9 places qu'on loue à des touristes notamment, qui rejettent beaucoup de CO2, eux aussi vont être impactés. Ce sont d'ailleurs des temps difficiles pour les loueurs auto, à qui la loi L'Homme demande désormais de verdir leur flotte. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un prochain numéro de Tout roule.
Voici les news de la semaine, Pierre Devineau.
La Californie contre Donald Trump, le Golden State qui dispose de sa propre agence de contrôle de pollution de l'air, décide de ne plus suivre les recommandations de Washington et d'inciter indépendamment d'acheter des véhicules propres. Petit indiscret, à la réunion de la filière automobile cette semaine, dans la cour de Bercy, que des SUV. Une bonne blague lorsqu'on entend maintenant que des voix qui veulent interdire carrément la possession de ce type de véhicule.
Le paradoxe français. On en vient à l'essai de la semaine, Pierre Devineau, et justement, c'est une Maserati, vous êtes un peu provoque, vous. Hein. Le SUV Levante SQ4.
Oui, et vous êtes en droit de me dire, mais pourquoi cette voiture sortie il y a bientôt 4 ans? Parce que c'est une espèce en voie de disparition. Des voitures comme ça, avec ce bruit très spécifique, dans très peu de temps, on n'en conduira plus, sauf en collection. Les normes anti-pollution écrasent les possibilités de produire un tel véhicule, qui aujourd'hui est mué par un V6 3 litres 430 chevaux, qui rejette, 253 grammes de CO2 par kilomètre.
Ouf, quelle accélération!
Maserati prépare une nouvelle gamme de véhicules pour les années à venir, partiellement électrifiés, sans doute downsizés avec des moteurs plus petits. Mais profitons encore quelques temps de la gamme actuelle. Il y a un côté artisanal, tout n'est pas parfait. La connectique, l'écran tactile, la navigation, tout ça, ça date, c'est vieillot. On a l'impression de téléphoner avec un Nokia 8210. Mmh. Et quand on se gare, écoutez bien, on peut perdre ses deux tympans. Et c'est pour ça que les constructeurs allemands rigolent et disent « Bah voyez, c'est dépassé. Peut-être, mais moi je trouve que ça a son charme. Alors profitons-en un peu tant que ça dure. »
La SUV Levante SQ4. Pour terminer, le petit insolite de la semaine.
Oui, très très vite, regardez la dernière pub EDF à la télé dans un supermarché avec des promotions et des décors 70s. Et vous reconnaîtrez sur le parking que des Fiat 124 berlines, autrement dit des 125P produites en masse en Pologne dans les années 70 et 80. Ouais. Un vestige du passé qui aujourd'hui devient aussi kitsch qu'un tabouret tam-tam en plastique de couleur.
Ça redevient la mode, les tam-tam plastiques.
Oui, c'est vrai. Peut-être ainsi, bientôt les Fiat 125P.
Ça achève tout roule. Merci Pierre Deville. Nous rendez-vous dimanche Merci. Prochain et demain à la présentation d'Europe Midi. Merci Pierre.
C'était Tout Roule avec les pneumatiques Hankook. Sécurité, adhérence, longévité. Faites confiance aux pneus 4 saisons Hankook, sûrs et performants tout le temps et par tous les temps. À suivre, Wendy, le rêve.
La magie, l'univers de... Bonsoir, mon cher Fabien Lecoeuf.
Bonsoir, Wendy, bonsoir à tous. L'univers de Walt Disney qui a accompagné nos vies depuis presque un siècle.
Et quelle chanson.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir. Et à 18h50, eh bien, c'est le rendez-vous musical et culturel de ce grand journal, une chanson dans la tête.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire.
Fabien Lecoeuvre et sa spéciale oui. Disney à l'approche oui. des fêtes que vous nous avez concoctées avec
délice. Évidemment, parce que je suis obligé de vous parler aujourd'hui du triomphe de la Reine des Neiges 2 qui flirte là ce soir avec les 4 millions d'entrées. C'est un record absolu, puisque le précédent... Le précédent film, la Reine des Neiges, qui était sorti le 2 décembre 2013, avait fait, lui, ses 4 millions pratiquement en 2 mois. Donc, c'est un record vraiment incroyable.
Et les enfants reconnaîtront ce tube.
Évidemment, du livre de la jungle.
Non, attendez, pardon, de la Reine des Neiges. Vous passez déjà si vite en besogne. La Reine des Neiges.
Ah, ben voilà, libéré, voilà, celui-là. Je ne mentirai plus jamais. Et puis, je suis obligé de vous parler qu'en cette période de fin d'année aussi, il y a des spectacles Disney en ce moment partout, oui. à Paris et en France, puisqu'il y a La Petite Sirène qui est au Casino de Paris depuis hier et jusqu'au 5 janvier. Et puis Disney sur glace, La Magie Éternelle arrive au Zénith à partir du 11 décembre. Alors voilà pourquoi il est important de parler de cette actualité. Disney qui reste depuis presque une centaine d'années quand même aujourd'hui les animaux préférés des enfants. Quoi,
comme
et les
vous êtes aussi une mémoire de la chanson, vous avez dégoté de très très jolies histoires oui. autour des chansons cultes de Disney. Mm-hmm. Le premier long métrage, le dessin animé de Disney,
il est sorti le 4 mai 1938 au cinéma Le Marignan à Paris. C'était Blanche-Neige, évidemment. Et celle qui chantait les chansons de Blanche-Neige, c'est Lucienne Dugard, grande, grande interprète, grande voix des années 30.
Là, on s'envole hein, dans cet univers. Ah, oui. Mais ce qui est magnifique et ce que j'ai appris en préparant cette chronique avec vous, Fabien, c'est qu'à chaque réédition ressortie des Disney, souvent, il y a un nouveau casting vocal.
Oui, parce que les voix évoluent avec le temps. Et pour le 25e anniversaire, le 25e anniversaire de Blanche-Neige, eh bien, on avait demandé à Isabelle Aubray d'interpréter justement « Un jour, mon prince viendra ». C'était en 1963.
Un jour, mon prince viendra.
De grands noms de la chanson française au casting de ce qui se cache derrière les personnages. Oui. Si on allait avec vous en 1971 parler d'un film qui parle de cats, de chats.
Évidemment, Les Aristochats qui a été un succès incroyable, qui a fait plus de 10 millions d'entrées dans les années 70. Mais on est obligé de parler d'Henri Salvador parce que la collaboration entre Henri Salvador et Disney commence d'abord sur un malentendu. Mmh. En effet, en 1964, Henri, de retour d'un voyage aux USA, enregistre Zorro est arrivé. Ah, une chanson qui lui ouvrira les portes de l'empire Disney. Il en vendra plus d'un million d'exemplaires en France. Oui. Je rappelle que Zorro, la marque Zorro, appartient à la maison Disney.
Absolument.
Et Henri Salvador n'avait absolument pas demandé l'autorisation au départ en 1964.
Oui, puis c'est une caricature de Zorro. Hein.
Évidemment, qui est un personnage illustre de 1911, il faut le rappeler. Eh bien, les Américains se rapprochent donc finalement d'Henri Salvador et ils lui confient justement pour se rattraper certaines chansons, sachant qu'Henri Salvador était un grand, grand personnage très populaire auprès des enfants dans les années 60 et 70. Donc Salvador enregistre bien sûr Les Aristochats.
Qui fait toujours le dandy dans tout Paris? Qui dit toujours j'ai un beau pédigré? Qui dort sur un truc en chinchilla? Naturellement, les Aristochats.
Il est très Thomas O'Malley, Henri Salvador.
Il est parfait, il est parfait dans son jazz, dans sa prononciation. Il est absolument merveilleux pour Walt Disney.
Il se trouve que vous accompagnonnez avec de grands artistes, et je pense en particulier à Chantal Goya. Vous étiez son attaché de presse au moment où l'histoire avec Disney se crée.
C'est-à-dire, bien sûr, puisque Chantal Goya pulvérise tous les records de vente de disques en 1977 avec Allons chanter avec Mickey.
À avec sur scène oui. les vraies figurines les qu'on vrais... voit aujourd'hui dans les parcs
dans
Disney.
Les parcs, puisqu'on n'a plus le droit de les sortir des parcs aujourd'hui, c'est la consigne de Walt Disney.
Et qu'on vous avez fait vous ?
C'est Londres. Mais à l'époque, il n'y avait pas de parc. Donc il fallait, bien promotionner. Il fallait bien c'est promotionner la marque Disney. Oui. Et donc ce qu'il faut raconter, c'est que cette chanson est bien sûr très célèbre de Chantal Goya, qui se vendra aussi à plus d'un million d'exemplaires, était composée par son illustre mari Jean-Jacques Debout, bien sûr, aux sonorités militaires, puisqu'au départ c'était une chanson qu'avait composée Jean-Jacques Debout pour Johnny et Sylvie, pour une émission des Carpentiers. C'était une marche militaire que devaient chanter Johnny et Sylvie. Et finalement, c'est resté dans un tiroir, ils ont refusé de la chanter, et puis on l'a ressorti pour Chantal Goya.
Nostalgie encore, écoutez ceci.
Un perroquet, deux petits amis. Renard orphelin de tout petit cœur.
Génération 80, la vous êtes à l'écoute, c'est Dorothée, Roxy Rookie.
La merveilleuse Dorothée, qui on l'a oublié en 1979, avait signé avec la marque Disney en présentant l'émission Disney Dimanche sur France 2, enfin, qui s'appelait à l'époque Antenne 2. Et puis pour ce 31e long métrage de Disney, en décembre 81, elle enregistre Roxy Rookie, énorme succès. Plus grosse vente de Dorothée avant Où la menteuse, son célèbre tube qu'elle exercera 4 mois plus tard.
Magnifique. Vous vous êtes aussi occupé de Douchka. Et alors moi, j'ai dans ma discothèque cet album de Douchka, Mickey, Donald et moi. Nous avons Douchka avec sa robe écossaise. Nous
1984.
Oui, la grosse figurine de Mickey et la grosse figurine de Donald.
Oui,
et
je, vois ce que vous, je vous vois arriver,
et,
Wendy.
Et dans Donald, c'est vous, Fabien Lecoeuvre, pour ceux qui ont la pochette à la maison.
Pour ceux qui ont la pochette à la maison, oui, c'est un pur accident, puisque le jour de la séance de photo avec Douchka, Mickey et Donald, les deux danseuses qui devaient rentrer dans les humanoïdes, notamment celle qui devait faire Donald, c'était notre amie Patricia Charbonnier, qui présente beaucoup la météo en télévision aujourd'hui.
Oui.
Et puis elle n'est pas venue, elle s'est trompée de studio avec l'autre danseuse, Isabelle Ressiga. Et à ce moment-là, on a demandé, le photographe Bernard Leloup a demandé à tout simplement à Pascal Petit, la maman de Douchka, qui accompagnait sa fille ce jour-là, et à son attaché de presse, donc moi-même, de rentrer ne serait-ce que 10 minutes dans les personnages.
Vous l'avez fait, écoutez. C'était encore la période où les partenariats se nouaient facilement avec Disney.
Absolument.
C'est Douchka qu'on entend à l'instant.
La pochette est sur Twitter,
N'hésitez pas à partager.
Wendy Bouchard. Et puis je ne peux pas parler de Disney sans parler d'Anaïs Delva, évidemment. Tout le monde connaît sa chanson, Elle agace. La grande, grande chanson, Libérée.
Vous voulez vraiment la réécouter?
Bon, allez.
Libérée, délivrée.
La Reine des Neiges, dont le deuxième opus est sorti au cinéma.
Exactement.
4 millions de spectateurs.
Cette chanson qui est sortie le 2 décembre 2013, qui est devenue un succès planétaire, a permis au scénariste de faire de La Reine des Neiges un personnage totalement attachant. Ça devient le plus grand succès de tous les temps. Cette chanson a été traduite en 43 langues, il faut le rappeler quand même. Et c'est un énorme succès qui recevra des Grammy Awards. Enfin voilà. Et Anaïs Delva, je peux vous donner une nouvelle, puisqu'elle vient de sortir un album spécial Noël, où elle a repris Vive le vent, Mon beau sapin, Petit Papa Noël.
Pour les
enfants. Donc on a quand même des nouvelles d'Anaïs Delva. Et on l'aime beaucoup, elle a une très belle voix.
Merci. Vive Mickey, l'univers de Disney. Fabien Lecoeuvre, merci pour ces anecdotes croustillantes. À la semaine prochaine avec grand plaisir. Mais vous pouvez rester si vous le souhaitez. On est à l'écoute et avec vous jusqu'à 20h, les amis.
À suivre le journal.
18h, 20h. Wendy Bouchard vous informe sur Europe 1. Europe 1. Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir.
Et voici tout de suite Sophie Tussaud pour le journal. Rebonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est 19h.
C'est quoi le danger? C'est tout simplement des effets de foule, avec dans les escaliers, des effets de chute et autres.
Journée noire demain dans les transports. La SNCF appelle les usagers à ne pas se rendre dans les gares. Les prévisions de trafic à suivre dans ce journal.
La grève sans racine, difficile pour les familles de trouver l'organisation optimale.
Si c'est pas trop longtemps, on peut le comprendre, mais ça peut vite devenir compliqué.
Mayotte menacée par le cyclone Belna. Le département est en alerte rouge. La population a reçu l'ordre de rester confinée.
Comme c'est un cyclone qui peut changer sa trajectoire, on ne sait pas trop si on doit être inquiet. On attend que ça frappe et que ça passe.
Et puis le Téléthon, un compteur en hausse cette année. Plus de 74 millions et demi de promesses de dons recueillies.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Encore une journée noire qui s'annonce demain dans les transports, Sophie.
Et oui, pour mettre la pression sur le gouvernement qui procède aux derniers ajustements de la réforme des retraites, la grève se poursuit et le trafic sera fortement réduit, Caroline Baudry.
Oui, insuffisant pour accueillir tous les voyageurs attendus ce lundi. Un TGV sur 5, quelques bus à la place des TER et un trafic extrêmement perturbé en Ile-de-France où l'affluence pourrait être difficile à maîtriser. Alors Claude Solard, directeur général de SNCF Gares et Connexions, appelle carrément à éviter les gares.
C'est quoi le danger? C'est tout simplement des effets de foule avec dans les escaliers des effets de chute et autres. Mais ça ne sert à rien que les usagers se précipitent alors qu'il n'y aurait pas d'offres et qu'ils seraient refoulés. Et donc c'est pour ça qu'on préfère attirer l'attention des Franciliens que le niveau du service lundi ne permettra pas de transporter tout le monde et donc il faut trouver des solutions de substitution.
Et même galère dans le métro où, selon la RATP, le réseau sera lui aussi saturé. 10 lignes sur 16 resteront fermées. Mais attention, sur celles qui seront ouvertes, seul un service minimum sera assuré en heure de pointe. Les lignes automatisées, la 1 et la 14, fonctionneront, elles, normalement. Enfin, pour les RER, sur la ligne A, il y aura un train sur deux en heure de pointe. Et sur la ligne B, ce sera un train sur trois.
Merci Caroline Baudry. Alors avec ces grèves à répétition, certains ont posé une journée de congé jeudi dernier. D'autres ont opté pour du télétravail. Mais à présent, il faut retourner au travail.
Et pour l'instant, pas d'indication sur la mobilisation à venir dans l'enseignement mardi. Cela dit, les enseignants ne comptent pas en rester là. Leurs pensions sont en danger, nous disait Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, il y a quelques instants. Difficile dans ces conditions de savoir et de s'organiser pour les familles. Reportage de Victor Dolande.
Si c'est pas trop longtemps, on peut le comprendre, mais ça peut vite devenir compliqué.
Aude et Sébastien, un couple de trentenaires avec deux enfants. Jeudi et vendredi dernier, cette chef de projet architectural a opté pour le télétravail. Mais demain, retour dans son entreprise et elle ne sait pas encore si l'école de marin, 4 ans, sera ouverte.
Donc j'irai le déposer lundi. S'il y a école, tant mieux. Et sinon, je reviendrai avec lui à attendre la nounou qui... on espère, arrivera.
Une nounou qui garde la petite dernière, Jeanne, 1 an et demi et qui peut dépanner. Mais si elle doit garder les deux enfants plusieurs jours de suite, ce sera forcément des frais en plus. Le papa, Sébastien, lui, commence déjà à envisager d'autres solutions si la grève se poursuit.
Notre fils marin a des copains dans l'immeuble, notamment, donc on peut très bien peut-être s'organiser avec leurs parents. On peut trouver des organisations qui rendent la vie plus facile.
Aude anticipe encore plus et se projette dans 2 semaines.
On pense aussi forcément à nos vacances qui approchent, donc on aimerait bien au moins que les trains soient maintenus à ce moment-là, parce que nous, on fait tout en train, en fait.
Des plans B pour garder les enfants, de la marche à pied pour aller travailler. Pour l'instant, ces jeunes parents se débrouillent, mais ils pourraient s'inquiéter davantage si la grève venait à durer.
Victor Dolande.
Les syndicats sont bien décidés à faire plier le gouvernement, vous l'avez compris. Le projet de réforme des retraites sera présenté, cela dit, mercredi à midi par Édouard Philippe.
Et en attendant, le gouvernement procède aux derniers ajustements. Après une réunion à Matignon cet après-midi, Édouard Philippe et les ministres concernés se réunissent ce soir avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Demain, la majorité sera ensuite conviée à un déjeuner de calage. Autre temps fort de la journée de demain d'ailleurs, la réunion multilatérale qui se tiendra dans l'après-midi au ministère des Solidarité et de la Santé. Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye vont recevoir l'ensemble des partenaires sociaux. Olivier Samain, à quoi va servir cette rencontre à 48 heures de la présentation du projet de réforme ?
Eh bien, ce sera un peu la cérémonie de clôture de la concertation menée depuis un peu plus de 2 ans maintenant par Jean-Paul Delevoye. L'objet n'est pas de dévoiler l'architecture définitive de la réforme, ça ce sera la tâche d'Édouard Philippe mercredi. Non, le but demain, c'est de dresser un état des lieux des points qui font consensus et des points de divergence qui sont apparus ces dernières semaines sur des sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre, comme le rythme de déploiement de la réforme, génération 63 ou génération plus jeune, les transitions pour certaines professions ou régimes spéciaux, la gouvernance du futur système universel ou encore les droits familiaux et la pénibilité. Pour être clair, certains protagonistes de la réunion de demain ne se sentiront pas trop concernés par l'exercice. La CGT et Force ouvrière ne veulent pas du système universel par points et réclament l'abandon pur et simple de la réforme préparée par le gouvernement. C'est donc du côté de la CFDT, de l'UNSA et de la CFTC que les regards se tourneront. Le but étant de savoir jusqu'où Édouard Philippe ira, 48 heures plus tard, dans la recherche du consensus avec ses syndicats pour essayer de faire passer sa réforme.
Olivier Samain du service économie d'Europe 1.
On se retrouve dans un instant à l'écoute du journal avec Mayotte menacée par un puissant cyclone et une belle récolte de dons pour le Téléthon. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
Il est 19h08, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
Et le cyclone Belna se rapproche dangereusement de Mayotte. Mayotte, Sophie, en alerte rouge.
Oui, Belna pourrait changer de trajectoire, mais s'il touche Mayotte, il pourrait être destructeur. Selon le préfet, des écoles et des gymnases ont été ouverts pour mettre à l'abri les habitants les plus précaires. La population a reçu l'ordre de rester confinée. Mouniati habite à Kaweni, près de Mamoudzou. Elle a écouté les messages de prudence des autorités et également les consignes.
Déjà, de faire tous les provisions en amont, à savoir les packs d'eau, la nourriture, les bougies, les piles, une radio au cas où les communications sont coupées, faire rentrer tout ce qui peut voler, mettre à l'abri les animaux, ne pas sortir, ne pas se mettre en danger. Comme c'est un cyclone qui peut changer sa trajectoire, on ne sait pas trop si on doit être inquiet. Ce qui est rassurant, c'est que tout ça a été bien géré par les autorités, que les renforts ont été envoyés, que le préfet il fait le job, que les mairies aussi, et ça enlève une part d'inquiétude. Il se trouve qu'on est en face d'un collège qui accueille des populations, donc on les a vus venir tout à l'heure. Là, tout est fermé, je pense que tout le monde est à l'intérieur. On attend que ça frappe et que ça passe.
Témoignage recueilli pour Europe 1 par Sophie Echen.
Après une année 2018 morose en raison du mouvement des Gilets jaunes, cette édition 2019 du Téléthon affiche un compteur en hausse.
74 500 569 212 euros de promesses de dons ont été recueillis, ce qui va permettre de faire avancer la recherche pour lutter contre les maladies. Une victoire pour Laurence Thiénot-Hermand, la présidente de l'Association française contre les myopathies.
Les Français ont été au rendez-vous pendant ces 30 heures. Il y a une belle participation dans toutes les communes, les moindres petits villages. Je pense que ce qui a été remarqué, vu par toute la population, c'est les belles victoires qui ont été remportées contre un certain nombre de maladies. Et je pense qu'il y a à peu près 5 ans, si on m'avait dit qu'on aurait aujourd'hui ces premiers traitements pour ces maladies extrêmement lourdes, invalidantes, voire mortelles, je pense que je ne l'aurais pas cru. Alors, de vos dons dépendent toutes les actions, tous les programmes de recherche. Il ne faut pas relâcher l'effort. C'est pour cela que toutes les lignes du 36-37 sont ouvertes. Elles attendent votre appel. Pour cela, on a besoin de la mobilisation du plus grand nombre.
Laurence Thiénot-Hermand, la présidente de l'Association française contre les myopathies. Vous l'avez entendu, le 36-37 pour faire un don ou bien directement sur le site téléthon.fr.
Sophie Tussaud, tout à l'heure 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et au menu, demain encore du vent, Valérie Darmon.
Et oui, le vent déjà sensible depuis ce matin du golfe de Gascogne à la pointe bretonne jusqu'au Pas-de-Calais se renforce encore en Bretagne et le long des côtes de la Manche avec des pointes à 100 km/h sur le littoral et 70 dans l'intérieur des terres. En cours de nuit prochaine, ces rafales qui atteignent 110 km/h sur les côtes, 90 à 100 dans l'intérieur des terres, c'est-à-dire de la Bretagne au Hauts-de-France, en passant par la Normandie jusque sur le bassin parisien. Attention aussi si vous êtes en montagne, une tempête de neige est annoncée sur les hauteurs du Jura, le nord des Alpes et l'Isère, avec des vents à plus de 110 en montagne et 30 à 60 cm de neige fraîche au-dessus de 1300 mètres d'altitude. De la neige, vous en avez aussi sur le Massif central, avec 10 à 20 cm de neige fraîche au-dessus de 1002. Les températures de demain restent stationnaires en revanche.
Merci Valérie Darmon. Il est 19h11, tout de suite, le journal des sports, Wendy.
Christophe Lamarre, on vous retrouve pour cette 17e journée de Ligue 1 avec la fin du match entre Nantes et Dijon.
Nantes qui s'impose 1-0 face aux Dijonnais. On retrouve Loïc Folliot, notre correspondant sur place au stade de la Beaujoire. Loïc, la bonne affaire, l'une des bonnes affaires de cette 17e journée, elle est bien pour les Nantais.
Service minimum, mais soirée parfaite pour le FC Nantes qui s'impose face à Dijon 1-0 grâce à une réalisation de Ludovic Blas à la 73e. C'est le 8e succès de la saison pour les Canaries, à chaque fois sur la plus petite des marges. Une victoire longue à se dessiner, mais logique, qui permet aux Bretons de remonter à la 5e place alors que les Dijonnais s'enlisent. Les Bourguignons occupent ce soir la 16e place de Ligue 1.
Loïc Folliot en direct du stade de la Beaujoire à Nantes. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Reims a battu Saint-Etienne 3-1. Les Rémois remontent à la 9e place du classement. Dernière rencontre de cette 17e journée ce soir à 21h. Marseille 2e reçoit Bordeaux 5e. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Les Marseillais qui devront faire sans Dario Benedetto blessé, Valère Germain sera titulaire.
En foot, encore une surprise en Coupe de France.
Lens éliminé au 8e tour par un club de National 3. Les 100 et or, pourtant 2e de Ligue 2, ont été battus 2-1 par Dieppe qui évolue donc 3 divisions en dessous des Lensois. Qualification par ailleurs du Mans et du Paris FC.
On passe au rugby avec la Coupe d'Europe et Toulouse qui sort vainqueur du duel franco-français de l'après-midi.
Eh oui, que voulez-vous Wendy, Toulouse reste intraitable à domicile en championnat comme en Coupe d'Europe. Voilà plus d'un an qu'ils n'ont plus perdu chez eux. Et cet après-midi, les Toulousains ont battu Montpellier 23-9, Patrick Anselmetti.
Avec cette victoire, la troisième en trois matchs de Coupe d'Europe, Toulouse conforte sa place de leader de la poule 5 qui a fait un grand pas vers la qualification en quart de finale de cette compétition. Sous une pluie battante, les Toulousains très réalistes ce soir n'ont laissé aucune chance à des Montpelliérains puissants mais manquant d'imagination pour tromper la défense toulousaine. Les deux essais toulousains ont été marqués par l'international français Romain Ntamack au 36e et 50e minute. Les autres points ont été inscrits au pied par Thomas Ramos. Montpellier de son côté n'a marqué que 3 pénalités par Payog et Stein et rétrograde ce soir à la 3e place de la poule 5.
Patrick Anselmetti en direct du stade Ernest Vallon de Toulouse.
Le reste de l'actualité sportive en bref.
La Coupe du monde de biathlon à Östersund en Suède. La France prend la 6e place du relais féminin. La Norvège s'est imposée devant la Suisse et la Suède. Le relais norvégien décidément imbattable puisque les hommes l'ont emporté hier sur cette même épreuve. Et puis le basket, la 12e journée de la JP Elite. L'ASVEL bat les Metropolitans 86 à 76. Villeurbanne signe un 13e succès en autant de matchs de championnat, un sans faute. Alors pourquoi on parle de l'ASVEL et pourquoi on parle des Metropolitans? Parce que l'ASVEL est dirigé par un certain Tony Parker et que les Metropolitans sont dirigés par un certain Boris Diaw. Et Boris Diaw et Tony Parker, non contents d'avoir évolué ensemble aux Spurs de San Antonio en NBA, ils ont été aussi ensemble en équipe de France, ils sont très copains. Enfin voilà, c'était des retrouvailles un peu particulières. Avantage à Tony Parker pour le match aller.
Merci Christophe Lamarre pour toutes ces infos. Et à tout de suite.
Et oui, dans un instant, on part dans le sud-est, Wendy Bouchard.
Pour se demander comment sont pris en charge les sinistrés des deux départements frappés deux week-ends de suite par les inondations destructrices et meurtrières. C'est la Fédération des Assurances qui est avec nous ce soir. À tout de suite.
19h17, vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur Europe 1 avec Wendy Bouchard.
Et parce que nous ne voulons pas qu'une actualité en chasse une autre, nous n'oublions pas les sinistrés, les intempéries des week-ends passés dans le sud-est de la France, dans quelques communes du Var où nous étions, dimanche dernier encore, des Alpes-Maritimes également. 7 morts le week-end dernier, 6 morts il y a 15 jours, à Mandelieu-la-Napoule, à Roquebrune-sur-Argence, au Muy en particulier. La situation a été particulièrement catastrophique. Bonsoir Arnaud Schneeweis.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général de la Fédération française de l'assurance. On va parler justement dans la manière dont vous encadrez aujourd'hui ces sinistrés. Est-ce que vous avez d'abord à nous livrer de nouvelles estimations en nombre de déclarations de sinistres, notamment de ces deux week-ends de catastrophes naturelles ?
Non, alors il n'y a pas de nouvelles estimations. On a fait des estimations sur le premier événement, le premier week-end. Et nos estimations étaient d'un peu plus de 40 000 sinistres et pour un montant un petit peu inférieur à 300 millions d'euros. Donc le deuxième week-end, bien sûr, va ajouter à coup sûr plusieurs dizaines de millions d'euros, peut-être davantage, mais on n'a pas encore d'estimation précise là-dessus.
Ça veut dire que vous attendez encore des remontées de déclarations de la part des sinistrés ?
Alors, il faut inciter les sinistrés à prendre contact avec leur assureur dans les meilleurs délais et à faire leur déclaration.
Il est encore temps.
Oui, bien sûr, il est encore temps. Normalement, après une catastrophe naturelle, vous avez un délai de 10 jours. Donc, pour ce qui est du premier week-end, l'État, le ministère de l'Intérieur, a publié la liste des communes qui sont en état de catastrophe naturelle. Il y en a 148. Mais cela étant, bon, les assureurs sont là pour soutenir leurs assurés. Donc, ils ne seront pas là à pinailler pour quelques jours si la déclaration n'a pas été faite dans les temps. Mais il faut inciter les sinistrés à contacter leur assureur s'ils ne l'ont pas déjà fait, parce que l'assureur, au-delà de lancer la procédure d'indemnisation, il peut leur apporter des aides tout de suite. Il peut leur apporter des avances financières si jamais ils en ont besoin. Il peut apporter, bien sûr, du soutien psychologique. Et bien sûr, il peut aussi envoyer l'assisteur pour mettre en sécurité la maison s'il y a besoin par rapport aux portes et fenêtres. Donc, il peut sécuriser le bâtiment dans les meilleurs délais.
Bien sûr, vous parlez de ces mesures d'urgence aussi. Du côté des assureurs, des facilitations pour les déclarations de sinistres. Hein. Vous avez été très ouvert en disant que toutes ces déclarations, pour aller plus vite, pourront se faire par téléphone, par Internet, par lettres simples, sur photos simples, témoignages.
Bien sûr, en prenant des photos et puis en faisant comme ça la déclaration. Pour tout ce qui est des petits sinistres, entre guillemets, petits sinistres signifient inférieur à 1 000 euros, 1 500 euros, ça dépend de l'entreprise d'assurance, chacun a sa politique de gestion de sinistre. Mais pour tout ce qui est les petits sinistres, il n'y aura pas de passage d'expert, et c'est simplement au vu de la déclaration et des éléments, bien sûr, concrets que le sinistré, que l'assuré pourra fournir, l'indemnisation se fera comme ça. Et puis dès lors que le sinistre est plus significatif, là, il faut le passage d'un expert. Alors la difficulté de ces sinistres inondations, c'est que bien sûr, il faut que l'eau se soit retirée, il faut que ça sèche, il faut qu'une entreprise d'assainissement soit passée pour nettoyer, enlever la boue, etc. Et afin que l'expert puisse avoir son diagnostic sur l'ampleur des dégâts.
Arnaud Schneeweiss, vous êtes délégué général de la Fédération française de l'assurance et on pense à ces assurés pleins de lassitude, de peine évidemment. Certains à Mandelieu et Lanapoule ont déjà tout perdu en 2015, ça a récidivé par deux fois ces 15 derniers jours. Comment ça se passe du côté des assureurs? Est-ce qu'ils sont en droit de dire nous, en cas de sinistre, vous êtes en zone inondable, on ne vous assure plus, vous sortez de chez nous? Est-ce que ça, c'est possible?
Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez, sur le territoire français, presque personne, je vais venir tout de suite, ne peut dire qu'il a du mal à trouver une assurance habitation, que vous soyez en zone inondable ou pas. Maintenant, il y a un bout du territoire français sur lequel cette question est très pertinente et commence à se poser, c'est Saint-Martin.
Saint-Martin.
Dans les Antilles françaises, après l'ouragan Irma qui a coûté plus de 2 milliards d'euros à la profession de l'assurance, il n'y a plus qu'une poignée d'assureurs qui ont envie d'être toujours présents à Saint-Martin. Bon. Quand je dis une poignée, vraiment une poignée, c'est-à-dire quatre. Bon. Voilà, c'est le seul cas sur le territoire français où on a une vraie difficulté peut-être à trouver un assureur, tout particulièrement si vous voulez être au bord de l'eau, l'hôtel-restaurant pied dans l'eau en temps normal.
D'accord.
On comprend que les assureurs aient un peu de réticence.
Mais vous rassurez, si j'ose dire, ceux qui habitent en zone inondable aujourd'hui, dans ces territoires du Sud-Est notamment, voilà, qui ne seront pas exclus aussi de leur maison d'assurance.
Rester présent. La meilleure des réponses, c'est de développer la prévention, c'est de développer la culture du risque. Que ce soit l'État, les collectivités locales, les entreprises et nous, les particuliers, il faut absolument faire des progrès en matière de culture du risque.
Justement, il y a une info qui est parue hier au journal officiel et dites-nous ce qu'elle change pour ceux qui habitent dans ces zones et pour les communes concernées. L'information, c'est la suivante. Les travaux destinés à réduire la vulnérabilité face aux inondations des habitations et de certains bâtiments professionnels vont pouvoir bénéficier d'une prise en charge financière plus importante par l'État sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les assurés?
Dans le fonds Barnier. Voilà. Bon, mais souvent, donc le fonds Barnier doté d'environ 200 millions d'euros. Et la question, c'est reconstruire mieux, construire bien tout de suite, bien sûr, si c'est possible, construire plus résilient, mais aussi reconstruire mieux après l'inondation. Mmh. C'est-à-dire que la loi nous dit que les assureurs doivent remettre l'assuré dans la situation où il était auparavant. Cela étant, si on constate que les fondations de la maison n'étaient pas les bonnes, que la manière de construire n'était pas la bonne, que l'on parle d'inondation ou de sécheresse d'ailleurs, évidemment qu'il ne faut pas remettre exactement dans le même état. Il faut reconstruire mieux, plus solide, plus résilient. Faire des diagnostics des sols, voir si le sol est argileux en cas de sécheresse, etc. Et souvent, ça coûte plus cher de construire mieux. Et donc, l'apport financier que peut faire ce fonds Barnier, ce fonds de prévention des catastrophes naturelles, pourra nous aider justement à reconstruire mieux sur ces territoires. Après, il y a aussi des questions d'aménagement du territoire qu'il faut se poser.
Voilà, et qu'on se pose avec d'autres spécialistes en urbanisme, mais vous avez raison de les souligner, elles sont importantes.
On a trop bétonné les sols, ce qui provoque des ruissellements, on a trop construit en zone inondable, ce qui provoque des déclarations de catastrophes naturelles à répétition.
Dans le
cas de Nice, d'Antibes, c'est un peu tous les 18 mois qu'on est dans cette situation, donc ça pose de vraies questions d'aménagement du territoire.
Merci en tout cas pour ces propos, Arnaud Schneeweiss, délégué général de la Fédération française de l'assurance. Et donc on pense à tous ceux qui sont aujourd'hui sinistrés aux alentours de 40 000, selon les chiffres que vous venez de nous rappeler. Merci beaucoup.
19h24, Wendy Bouchard, c'est l'heure de Planète Sauvage sur Europe 1, l'actu des animaux.
Avec d'abord cette belle initiative pour aider les sans-abri et leurs chiens en ce début d'hiver assez rude. Opération lancée par Gamelle Plaine à Lyon, à Grenoble, mais aussi à Caen, à Rennes, Quimper, Paris, Strasbourg, Toulouse ou Montpellier. On en parle ce soir avec vous, Zoé Fontaine, chargée de projet pour le site Wanimo. Bonsoir.
Bonsoir.
En quoi consiste cet événement d'abord?
Le principe, c'est d'aider les sans-abri et leurs animaux. Mmh. Et comme nous, Wanimo, on a la conviction que les animaux de compagnie sont des partenaires privilégiés et nous apportent un soutien vraiment sans faille. Pour les sans-abri, c'est pareil. Donc pour nous, c'était très important de communiquer là-dessus. Et du coup, donc, du 6 au 20 décembre, nous organisons une mécanique de partage sur notre Facebook, donc le Facebook de Wanimo. Et à partir de 2000 partages de notre post Facebook, Proplan s'engage à offrir 980 kilos de croquettes donc aux animaux des sans-abri. Et donc nous, Wanimo, on s'engage également à offrir 400 produits de sellerie, donc des colliers, des laisses, des muselières pour pouvoir se déplacer dans les transports en commun plus librement,
On offre également pour les sans-abri des plaids et des lampes de poche qui peuvent leur être très utiles.
Alors, on va parler des marques que vous venez de citer. Wanimo d'un côté, ce grand site pour les animaux de compagnie, et puis la marque Proplan, alimentation pour les animaux. Mais ce qu'on comprend en vous écoutant, Zoé Fontaine, c'est que finalement, cette opération solidaire, à nous, citoyens, elle ne coûte rien. Ce sont juste des partages sur Facebook.
Exactement. C'est un simple partage sur Facebook qui permettra de débloquer tous ces dons.
Très bien, ça fait 11 ans que cette opération existe. Pourquoi à Lyon en particulier? C'est le terre d'ancrage de Gamelle Plaine, cette association?
C'est aussi par facilité, parce que Wanimo, nous on est basé à Dardy, donc c'est vrai que c'est important aussi pour nous de nous déplacer. D'ailleurs, on va faire une maraude avec l'association Gamelle Plaine courant décembre pour montrer aussi à notre communauté que leur partage sert vraiment à quelque chose et on pourra relayer toutes les communications là-dessus.
Quelle est votre plus belle récompense pour terminer avec ces opérations de solidarité?
Un sourire d'une personne, un chien heureux, enfin, donc c'est tout ce qui nous importe.
Vous allez, chers amis, sur la page Facebook de Wanimo et vous partagez cette opération de l'association Gamelle Plaine pour faire un peu plus d'heureux dans les rues bien froides de l'hiver. Merci beaucoup Zoé Fontaine.
Merci à vous.
En bref, le prix 30 millions d'amis, le concours des animaux remis à Drouhan a été attribué au récit d'Alexandre Signakov, Détachez-les et amenez-les-moi, paru aux éditions Fayard. Un moine écrivain qui considère que pour se sentir vraiment homme, il faut vivre près des animaux.
Et pour finir, Wendy, une soirée d'humour un peu particulière.
Ce sera demain au Palais des Grélas à Paris qui accueille la première édition des Tofus d'or. C'est un show pour les animaux avec un mélange de sketch, d'impro. C'est un vrai grand spectacle autour de beau monde. Hein. Florence Foresti, Jérôme Daran, Émeric Caron ou l'ami Christine Béraud.
Tout le monde est bien sûr bienvenu, les véganes, les non-véganes, les végétariens, les non-végétariens, pour parler des droits des animaux, pour fêter aussi les droits des animaux, et puis voilà, et passer un bon moment ensemble, en espérant qu'en partant, les gens se disent « j'ai été divertie, mais aussi je me pose des questions ». En tous les cas, c'est un spectacle qui s'adresse à tout le monde, et surtout c'est un spectacle dont les bénéfices iront à une association qui s'appelle la Ferme des Rescapés, dont je suis marraine, et donc moi je compte vraiment sur vous les auditeurs d'Europe 1, que j'affectionne tellement, et vous le savez, pour que vous me remplissiez le Palais des Glaces lundi soir, pour que 1, on passe une bonne soirée, et que 2, la Ferme des Rescapés, voilà, puisse passer un bon Noël.
La Ferme des Rescapés que vous trouvez à Cassagne dans le Lot et qui accueille 600 pensionnaires sur 300 hectares.
Et c'était Planète Sauvage. À suivre, Wendy, le grand débrief de l'actu.
20 minutes, oui, pour débattre des sujets du moment, la communication du gouvernement en question sur la réforme des retraites, la sympathie des Français face à cette colère sociale. Et j'accueille nos invités dans un instant, le député Hervé Berville et le journaliste Jean-Sébastien Ferjou. À tout de suite.
La suite de votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h et avec vous, Wendy Bouchard.
L'essentiel de l'info pour commencer, Sophie Tussaud, on vous écoute.
Une nouvelle journée difficile demain dans les transports. Le trafic SNCF sera encore très perturbé avec un TGV et un Transilien sur 5. La direction de la SNCF recommande aux usagers d'éviter les Transiliens par crainte d'une affluence très dangereuse dans les gares d'Île-de-France. À la RATP, 10 lignes de métro sur 16 seront fermées. Grosse perturbation également dans le RER A et B. Vous pouvez suivre le trafic en temps réel sur notre site internet europe1.fr. Et la semaine s'annonce décisive sur la réforme des retraites. Après des consultations cet après-midi à Matignon, Édouard Philippe et les ministres concernés se rendent ce soir à l'Élysée pour une réunion avec Emmanuel Macron. Derniers ajustements avant de présenter mercredi le projet de réforme. Mayotte menacée par le cyclone Belna, l'archipel est en alerte rouge. La population a reçu l'ordre de rester confinée. Les autorités appellent à la prudence. Le compteur du Téléthon en hausse, 74,6 millions d'euros de promesses de dons recueillis en hausse par rapport à l'année dernière. Il est encore temps de faire un don pour cela le 36-37.
Merci Sophie.
Europe 1. Et place au grand débrief de l'actu jusqu'à 20h avec vous, Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Soyez prudents sur la route. On vous accompagne avec les points de vue de nos invités ce soir. Il arrive dans quelques instants Jean-Sébastien Ferjou, journaliste, directeur de la publication d'Atlantico.fr. Avec nous, installé Hervé Berville. Bonsoir.
Bonsoir.
Député des Côtes d'Armor, porte-parole de La République En Marche. On va revenir avec vous sur la compréhension du mouvement social par une majorité de Français, l'inquiétude des différentes professions. On a entendu notamment les enseignants s'exprimer sur Europe 1 tout à l'heure sur l'avenir des retraites, communication discutée et discutable du gouvernement. Autant de sujets sur lesquels vous réagissez jusqu'à 19h55. Et pour commencer cette lecture de l'actualité de la grève, Hervé Berville, je voudrais que vous réagissiez à ce sondage paru ce matin, sondage IFOP dans le JDD. Le durcissement de la grève annoncé peut-être, mais une perception par les Français qui reste assez favorable. 53% des sondés soutiennent le mouvement et 59% d'entre eux trouvent que c'est le gouvernement qui, dans l'histoire, porte la plus forte responsabilité dans les blocages.
Alors, on peut s'attacher ici à analyser en détail tous les ressorts de ces sondages et ces études d'opinion. Moi, ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est qu'est-ce que nos concitoyens, qu'est-ce que les Français expriment. Il y en a fait un certain nombre de nos concitoyens qui expriment une défiance, ou en tout cas une inquiétude, une angoisse, parce que c'est un sujet qui peut être angoissant, parce qu'on parle à la fois de ce que l'on paye maintenant pour une future retraite, et puis on pense aussi à dans 20, 30, 40 ans, quelle sera la situation et comment on va avoir un système qui protège et qui permette de vivre dignement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, j'entends aussi ce qui s'exprime aussi de la part d'un certain nombre de nos concitoyens qui considèrent que le système actuel est injuste, qui n'est pas forcément très lisible et qui a une nécessité, si on veut faire face aux défis futurs, notamment aux défis démographiques, de le transformer, de le refonder pour qu'il soit plus juste, qu'il soit peut-être plus compréhensible par nos concitoyens et surtout qu'il fasse que le système des retraites soit à la hauteur et corresponde aussi au nouveau mode de travail actuel.
Mais pourquoi Hervé Berville, durer autant le plaisir, Xavier Bertrand dans Le Parisien aujourd'hui dit, mais pourquoi attendre mercredi pour exposer un texte qui inquiète autant les Français justement et qui explique ces chiffres? Vous venez de le démontrer vous-même.
Alors, Monsieur Bertrand, je crois, avait été aux responsabilités. On aurait pu lui dire aussi pourquoi il a attendu maintenant pour mettre sur la table un certain nombre de choses qu'il aurait eu le loisir, le plaisir et la responsabilité de faire quand il était aux responsabilités. C'est cette question de la refondition du système de retraite, de la fin notamment des régimes spéciaux, ce n'est pas quelque chose qui date de cette année.
Oui, et une partie de la droite ne le conteste pas d'ailleurs.
Tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a eu une séquence qui a été voulue par à la fois les partenaires sociaux, par le gouvernement, par Jean-Paul Delevoye. Et quand il y a eu cette manifestation de la semaine dernière, les partenaires sociaux, les syndicats savaient que l'arbitrage final et la concertation finale de M. Delevoye et de Mme Buzyn arriverait que cette semaine. Donc, j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu démocratique et du dialogue social. Par contre, là où vous avez raison, et certains nombre de nos concitoyens, moi je le vois dans mon territoire, dans les Côtes d'Armor, ils nous demandent, on sait ce sur quoi vous allez peut-être bouger sur les grands passifs, on sait quel système on va vraisemblablement quitter, mais on veut avoir des garanties, on veut avoir un certain nombre de réponses sur les éléments précis.
Oui.
Mais c'est parce que c'est une réforme systémique. C'est-à-dire que chaque cas est individualisable ou individuel.
Vous avez peut-être entendu Bernard Groison répondre à la lettre envoyée par Jean-Michel Blanquer aux enseignants qui ne rassure pas. Il a beau garantir, ce sont des propos incantatoires, disait-elle encore sur l'antenne. Bon, voilà,
c'est pour ça que notamment sur la question du point, il faudra que tout ça soit mis dans la loi, une garantie. Il y a la question de la règle d'or. Et il y a tout un tas d'autres sujets que la loi va permettre d'inscrire dans le marbre et de graver. Donc, moi, ce que je dis, j'ai fait une réunion de retraite sur mon territoire la semaine dernière. J'entends quand les gens nous disent, attendez, est-ce que vous pouvez nous dire, pour moi personnellement, exactement ce que ce sera? Mais on est encore en phase de discussion, de concertation. Je peux comprendre que ça peut inquiéter. Mais en même temps, quand on nous disait il y a 6 mois, vous avez fait un texte de loi qui n'a pas forcément été discuté, vous allez beaucoup trop vite, vous êtes beaucoup trop verticaux. Et quand là, on prend le temps aussi et on dit, notamment la CFDT, qui a beaucoup de bonnes idées et qui nous invite et qui continue à faire en sorte de faire du sur-mesure, de la haute couture avec ce texte-là, eh ben on nous dit, vous n'êtes pas assez rapide, il faut aller plus vite. Donc, il faut trouver l'équilibre.
Le fameux point d'équilibre.
Je peux vous garantir que la semaine prochaine, il y aura un certain nombre d'éléments de précision qui seront de nature à rassurer, à conforter et à donner plus de visibilité à nos concitoyens.
Hervé Berville, avant d'attendre votre interlocuteur, Jean-Sébastien Ferjou, qui peut vous donner le contrepoint en matière de communication. Vous qui êtes député des Côtes d'Armor, vous connaissez les principes quand même philosophiques de cette réforme qui faisait réagir hier sur notre antenne l'économiste Daniel Cohen au micro de Patrick Cohen. Et je voudrais que vous l'écoutiez.
Il va y avoir beaucoup de gagnants et beaucoup de perdants, puisque c'est un jeu à somme nulle, les masses distribuées ne vont pas changer. Parmi les perdants de ce nouveau régime, il y a des catégories entières, notamment dans la fonction publique, qui vont être perdants de ce nouveau régime. On ne peut pas leur dire, ce qui est malheureusement, je crois, l'erreur de départ de ce gouvernement, c'est comme ça parce que c'est juste. À partir du moment où on comprend que ça n'est pas juste en soi de perdre 30% de sa retraite et qu'il faut réfléchir à la manière de les compenser, et là, le débat s'ouvre. s'ouvrent. Est-ce qu'on les compense par un système de retraite qui ramènerait au système antérieur? Bon, à ce moment-là, c'était pas la peine de faire toute cette histoire. Ou est-ce qu'on les compense en augmentant, en revalorisant leur carrière pour qu'au bout du compte, dans l'ensemble, et ça c'est un nouveau pacte social qu'il faut définir avec les enseignants, ils ne s'estiment pas perdants.
Le fameux argument de la justice et de l'universalité qui doit faire avaler peut-être beaucoup de couleuvres, Hervé Berville, avant...
Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Cohen, qui est un excellent économiste, mais dans l'extrait que vous venez de passer, il a dit une chose et son contraire.
C'est-à-dire ?
Il dit les grands perdants seront notamment la fonction publique et les enseignants, mais il dit après qu'on est en train de réfléchir à un système justement de compensation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de perdants.
Oui.
Et donc ça, l'exemple...
Mais qui, pour l'instant, pas une garantie ni une certitude.
Mais c'est pour ça que la loi, le texte de loi n'est pas encore ici. L'exemple des enseignants, c'est un exemple typique de... En effet, si on appliquait mécaniquement et de manière brutale un certain nombre de principes, elles seraient les grands perdantes. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut changer la manière dont on calcule tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu de moins bien payer les enseignants pendant toute leur carrière, ce qui n'est quand même pas à la hauteur de ce que l'on doit à nos enseignants, on dit on va revaloriser, on a mis un chiffre sur la table tout au long de leur carrière, et du coup, dans le calcul de retraite qui sera effectué pour ces enseignants, elles ne perdront pas un euro. Il n'y aura pas de baisse de pension pour les enseignants.
Oui, ça, c'est la réforme idéale que vous souhaiteriez.
Non, c'est un pacte qu'on doit faire avec les enseignants. Et
Jean-Sébastien,
vous conviendrez bien qu'on ne va pas faire une réforme où les enseignants prendront 30% de leur pension.
En tout cas, ils sont les premiers à l'espérer. On les a entendus tout à l'heure. Bonsoir Jean-Sébastien Ferjot.
Bonsoir.
Vous qui êtes directeur de la publication d'Atlantico.fr, vous suivez évidemment cette actualité. Difficile lisibilité d'une réforme qui n'existe pas encore. Il a été l'un des premiers à le dire, Gérald Darmanin. Arrêtez de nous dire de reculer sur un texte qui n'est pas écrit. Il y a quand même un souci de communication. On veut jouer d'un côté la transparence. On donne un peu des billes et puis finalement on sème la confusion dans l'opinion.
Je pense qu'il y a eu des bugs de communication incontestablement, mais si on le prend de l'autre côté, si on regarde quand même ce que vivent les Français, la manière dont ils l'intègrent, je pense que de toute façon, on est dans une crise de défiance qui dépasse de très loin ce gouvernement-là.
Et cette réforme.
Donc, et cette réforme-là. Donc la difficulté, quand justement le gouvernement ou les membres de la majorité expliquent qu'il y a un pacte, moi, je ne vois pas de raison de ne pas les croire, justement, pour garantir notamment aux enseignants le fait que leur rémunération serait revalorisée afin qu'ils ne perdent pas dans cette réforme. Sauf qu'on ne les croit plus. Et le problème, c'est qu'on ne croit plus ni ce gouvernement-là, ni probablement d'autres. Le sujet, il est là et c'est un sujet qui dépasse de très loin la France parce que cette crise de défiance, elle existe dans toutes les démocraties occidentales. Donc la question qu'il y a maintenant, c'est peut-on imaginer que quelqu'un retrouve suffisamment de capital politique pour mener à bien une réforme de cet ordre-là? Parce qu'il faut quand même une majorité sociologique à un moment. Et là, on voit que les Français sont partagés. Ils savent très bien qu'il faudra une réforme sur les retraites. Alors en plus, on a mélangé deux réformes différentes. Une réforme qui a à voir avec la justice sociale. Je pense que ce gouvernement-là présume de ses forces en s'imaginant que quand il se positionne en justicier sur le front de la justice sociale, les Français ne l'entendent pas. La faute originelle des APL et en même temps que la réforme de l'ISF, elle demeure. Donc toute cette réflexion-là, il faudrait la voir parce qu'il y a, bien sûr, on peut parler de technique à l'infini pour savoir si c'est juste, pas juste pour X ou X catégorie, mais il me semble que le problème, il dépasse de très loin cet enjeu-là. Ça n'est plus un problème technique, c'est un problème de confiance politique.
Et cette défiance, elle explique pour vous la force syndicale, le sursaut syndical, le million de personnes dans les rues de manière pacifique jeudi dernier.
Et s'agit-il d'un sursaut syndical ou s'agit-il d'un mouvement de la base? Je ne suis pas certain, et c'est ce dont on va se rendre compte cette semaine, que les centrales syndicales, que M. Martinez ou d'autres contrôlent tant que ça leurs troupes. On l'a vu, souvenez-vous, il y a eu des mouvements de grève il y a quelques semaines au sein de la SNCF. Ça n'était absolument pas les centrales qui étaient déterminantes.
C'est la base qui dépasse aujourd'hui.
Donc malheureusement, on peut avoir l'impression d'un décembre assez différent de l'année dernière. L'année dernière, il y avait les gilets jaunes, il n'y avait pas d'interlocuteurs. Donc c'est impossible pour un gouvernement de gérer une crise qui n'a pas d'interlocuteurs, qui n'est pas représenté, qui n'est pas incarné. Là, il y a des syndicats, mais des syndicats qui finalement sont tellement déconsidérés parce qu'eux aussi pâtissent de la crise de défiance, que tout aussi bien, on peut être dans une crise justement qui n'arrive pas à se canaliser parce qu'on ne sait pas avec qui discuter.
Ouais, c'est intéressant, Hervé Berville, sur cette crise de défiance qui est là, c'est notable pour vous, parlementaire et politique.
C'est le cœur du sujet. Moi, je souscris 100% à ce qui vient d'être dit. Premièrement, crise de confiance vis-à-vis aussi de ce système d'entraide, parce que quand vous interrogez un jeune, il ne croit pas qu'il aura la capacité d'avoir un niveau de pension comme ses aînés. Et puis, en effet, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui disent « Ok, vous nous dites ça, mais comment peut-on vous croire ?» Parce que aussi, ça fait 20 ans qu'on leur dit « Ce sera la dernière réforme des retraites et vous verrez, le système sera à l'équilibre et ce sera un système qui est juste. » Donc, tout l'enjeu de cette semaine qui arrive, tout l'enjeu des prochains mois qu'on sera en train de discuter au Parlement de cette refondation du système de retraite, ce sera de dire on prépare l'avenir parce qu'il y a un enjeu de maintien, de garantie de ce système pour les 20, 30, 40 prochaines années et surtout ceux qui vont rentrer progressivement dans ce système nouveau, eh bien, pour ce qu'ils avaient cotisé avant, ce sera bien évidemment les anciennes règles qui seront prises en
Hervé
compte.
Berville,
et donc, on n'est pas là dans quelque chose de brutal, de, comment dire, d'assez arithmétique. On veut faire ça de manière progression, pour justement construire la confiance. Mais les prochains mois seront déterminants, pour notamment dans la loi, qu'on a des garanties dans la loi qui mettent en confiance tout le monde.
Je vous entends et encore une fois, je n'ai pas de raison de douter de la sincérité de vos propos. Malgré tout, ça fait 2 ans ou 2 ans et demi maintenant que cette majorité est au pouvoir. La concertation, elle a déjà duré quasiment 2 ans aussi. Donc si la confiance avait dû se construire, ne serait-elle pas déjà construite ? Mais c'est un reproche qu'on peut faire au gouvernement comme aux syndicats, parce que les syndicats, ils sont venus dans les concertations, ils étaient dans les réunions avec M. Delevoye et ils ne sont pas partis, ils n'ont pas claqué la porte à l'époque sur X ou X points. Mmh. Quand on entend parfois maintenant je ne sais pas, M. Martinez, par exemple, dire qu'on ne sait pas comment sera calculée la valeur du point, si ce sont des sujets qui ont été abordés. Maintenant, la conclusion, c'est si on n'a pas réussi à le faire, ou en tout cas, si le gouvernement et les syndicats n'ont pas réussi à construire cette confiance-là en 2 ans, pourquoi le ferait-il maintenant dans
la semaine qui vient ? À 3 jours de l'échéance, en effet. On va faire une petite pause et puis on vous retrouve sur ce sujet du moment, sur ce bras de fer, comme qualifié par certains confrères aujourd'hui. Hervé Berville, député des Côtes d'Armor, et Jean-Sébastien Ferjou, journaliste et directeur de la publication d'Atlantico.fr. A tout de suite.
Le grand journal du soir se poursuit avec la seconde partie de ce grand débrief de l'actu avec vous, Wendy Bouchard, et vos invités. Ce soir, Hervé Berville, député des Côtes d'Armor, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication du site Atlantico.fr.
Et cette fameuse réforme des retraites, qui va gagner, titrait le JDD aujourd'hui, bras de fer entre Emmanuel Macron et notamment le leader de la CGT, Philippe Martinez. Ce serait vraiment un échec s'il reculait, votre patron Emmanuel Macron, Hervé Berville ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un engagement pendant la campagne présidentielle, un engagement pendant la campagne législative et aussi un pacte que l'on a fait avec les Français en considérant que le système actuel ne permettait pas de répondre aux défis contemporains et qu'il fallait réformer ce système-là. Après,
autant,
ça ne veut pas dire...
Il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Oui,
hein.
Oui, mais c'est... quand M. Martinez nous dit la seule façon qu'on a d'aller au bout de cette situation, c'est le retrait, vous comprendrez que ce n'est pas du tout la logique, la philosophie dans laquelle nous sommes. Il y a un certain nombre de nos concitoyens, on le voit sur le terrain, qui disent il faut qu'on soit en capacité de refonder ce système-là. Pas que pour nous, mais aussi pour les générations futures. La discussion que l'on doit avoir maintenant, c'est celle, eh bien, comment on travaille avec les partenaires sociaux pour trouver des solutions, pour donner des garanties.
Et pour ne plus brouiller le message.
Exactement, et pour rétablir la confiance. Et je note simplement que la CFDT, qui est aussi un des grands syndicats de notre pays, n'a pas appelé à la grève et à la manifestation parce qu'ils considèrent que la mise en œuvre d'un régime universel permettra d'être plus protecteur. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive dans les prochaines semaines à bien faire expliquer, à bien faire comprendre un système plus protecteur.
Mais Jean-Sébastien Ferjou.
C'est un argument, oui, dans l'absolu, un régime universel peut être un régime plus juste. La question, c'est la transition. C'est que quand vous faites converger des régimes avec des gens qui ont des traitements très différents, enfin, qui sont traités de manière très différente, bah, soit vous l'alignez sur le haut, soit vous l'alignez sur le bas. Donc le diable est dans les détails. Donc on peut toujours dire que oui, c'est une réforme dont l'objectif est celui de la justice sociale.
Et
il peut y avoir mille pièges
au chemin.
Et c'est là où on en revient à la crise de défiance. Parce que malgré tout, il y a calcul contre calcul. On le voit bien, Philippe Martinez, il veut sa revanche sur les gilets jaunes. Oui. Dernière, tout lui avait échappé, le contrôle lui avait échappé, et en plus la CGT qui a longtemps été le premier syndicat en France est en perte de vitesse, donc on voit qu'il veut essayer de marquer quelque chose et de surfer sur le mécontentement, c'est même pas du mécontentement à vrai dire, parce que je pense que c'est une angoisse sociale qui existe dans le pays, qui dépasse de très loin le gouvernement qui est en face d'elle.
Et si on dépasse un peu ce jeu malsain qui fait un jeu aux CGTistes.
Il y en a un de la part du gouvernement aussi, qui dit mon cœur d'électorat, lui, il veut que je fasse des réformes. Et donc, c'est devenu l'espèce de totem. C'est-à-dire, on sera jugé à cette aune-là. C'est-à-dire, si on ne fait pas cette réforme-là, nous ne pourrons pas dire qu'Emmanuel Macron était un président réformateur. Et pour le coup,
il y a d'autres présidents réformateurs qui sont cassés les dents.
On aimerait que la réponse soit les Français. Oui. Sauf que là, on voit bien que c'est calcul contre calcul et que les Français, eux, ils se sentent un peu orphelins. Ce qui explique d'ailleurs l'espèce de position un peu mi-chef, mi-chou, finalement, qui s'exprime dans les sondages, avec à la fois des Français qui valident le fait qu'il faut une réforme des retraites. Après, on mélange tout parce qu'il y a à la fois la réforme dans l'absolu. Est-ce qu'on passe d'un système où il y a des régimes spéciaux à un système universel ? Et puis après, il y a la réforme paramétrique, comme on dit, pour assurer l'équilibre. Les deux sont deux considérations parfaitement séparées. Il faut le rappeler. Mais les Français, ben, eux, ils se disent oui, il faudrait une réforme. Mais en même temps, on soutient ce mouvement-là parce qu'on n'a pas confiance dans ce gouvernement.
L'idéal, Hervé Berville, une fois qu'Édouard Philippe, au Conseil économique, social et environnemental, aura présenté cette réforme, c'est de suspendre un peu le jeu, de reprendre le temps et d'engager les discussions dans ce fameux dialogue social qui
mais
est manifestement interrompu.
Les discussions, les négociations, les concertations n'ont jamais cessé. Oui. Ça a été un des premiers éléments sur lesquels on a travaillé, discuté. Mais en effet, puisque le diable est dans le détail, et surtout, on veut faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et qu'il n'y ait pas de perdants, eh bien, une fois qu'on aura posé les grands principes, une fois que
mais
le Premier ministre sera...
Est-ce qu'il ne peut vraiment pas y avoir de perdants
par définition, c'est impossible.
Cette formule est terrible parce qu'elle peut vous poursuivre. Est-ce qu'il n'y aura pas de perdants dans aucune réforme?
Ce que l'on veut absolument faire, c'est que, et notamment tout ce qui est parfois, on entend sur les femmes seront les perdantes, les agriculteurs finalement ne seront pas perdants.
Oui, bah, vu au cas par cas, c'est compliqué.
Non, ça c'est pas vrai. Et donc, tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est... d'arriver à maintenir les grands principes que l'on s'est fixés sur l'universalité, sur le fait de prendre en compte les carrières qui sont hachées. Et moi, j'avertis, je vous le dis parce que je les vois dans mes permanences. Il y a aussi une bombe à retardement qui est que il y avait avant, dans les années 45, il y avait peu de femmes qui travaillaient. Maintenant, on va avoir plein de femmes qui vont rentrer à la retraite, qui ont eu des carrières hachées et qui vont arriver avec une retraite qui ne sera pas du tout à la hauteur de ce qu'elle pouvait penser.
On en parlait avec Laurence Rossignol.
Et donc, oui, mais c'est pour ça que c'est important de mettre en œuvre cette réforme, parce que sinon, dans les 20-30 prochaines années, on aura beaucoup de personnes, notamment des femmes, notamment des travailleurs précaires qui se retrouveront avec des
tout
petites retraites. Et donc, nous, c'est pour ça notamment qu'on veut ce minimum garanti à 1 000 euros et qu'on veut mieux prendre en compte le fait d'avoir eu des enfants, le fait d'avoir eu des carrières coupées et hachées.
30 secondes pour conclure sur cette formule, il n'y aura pas de perdant, Jean-Bastien Ferjou. Est-ce qu'elle vous inspire?
Elle m'inspire qu'on peut imaginer une réforme qui essaie de prendre en compte le plus possible la diversité des situations pour qu'il n'y ait pas de perdant absolu. Mais par définition, elle n'a pas de sens. Ou alors, on décide qu'on fait converger tout le monde vers le régime le plus favorable. Et c'est absolument impossible, financièrement, comme pour des raisons démographiques d'ailleurs.
Merci Jean-Sébastien Ferjou, merci Hervé Berville. J'étais ravie de vous accueillir en studio pour ce grand débrief sur Europe 1. Vous, député des Côtes d'Armor et porte-parole de La République En Marche, on va suivre les échéances à venir. Et Jean-Sébastien Ferjou, je renvoie nos auditeurs à votre site atlantico.fr dont vous dirigez la publication. Merci beaucoup.
Merci.
François Clos arrive. Hein,
et le mot de la fin de ce grand journal du soir sur Europe 1, c'est François Clos.
Étonchant. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est une addition terrible pour le Real Madrid.
Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
Europe 1, l'air du temps. François Clos.
Et comment vous sentez le monde changer? Bonsoir François.
Bonsoir Wendy. Avec cette question, y aurait-il deux mondes militants totalement irréconciliables? Y aurait-il un mur infranchissable entre deux générations accrochées à leur propre combat? Y aurait-il d'un côté ce million de manifestants à l'ancienne, regroupés derrière une banderole, un slogan, un leader, encadrés par un service d'ordre et un préavis de grève, espérant par la seule puissance de la mobilisation faire pression et gagner? Y aurait-il de l'autre côté ces groupuscules vêtus de jaune ou de noir, sans slogan ni banderole, sans autre mot d'ordre que de brûler une banque ou de fracturer une vitrine, espérant par la seule violence tout changer? Y aurait-il d'un côté le monde de la conscience idéologique, des partis, des syndicats, exprimant le besoin de lutter ensemble pour se protéger? Y aurait-il en face le monde 2.0, les réseaux sociaux, la génération plus rivé à un écran qu'à un slogan scandé dans la rue, empli de rage non canalisée? Y aurait-il ceux qui ont 50 ans et qui votent, ceux qui ont 20 ans et qui like? Constat, je le reconnais, très amer, Wendy, mais étayé, il faut bien l'admettre aussi, par les images d'actualité de ces dernières heures, étayé par la réalité de l'histoire sociale française des dernières décennies, quand dans les années 80, il suffisait de manifester en nombre pour sauver l'école libre, quand dans les années 90, il suffisait de manifester en nombre pour sauver le système des retraites, déjà. Ce monde-là et ses syndicats ou partis laminés qui n'a plus rien gagné depuis 1998 et qui vit émerger stupéfait des bonnets rouges, des zadistes, des gilets jaunes. Un monde qui, en 2018, après une improbable mobilisation, alla jusqu'à s'attaquer physiquement au plus haut symbole de la République et qui obtint à l'arrivée du pouvoir une enveloppe de 11 milliards d'euros. Constat amer, étayé également par le dernier et magnifique film de Robert Guédiguian, Gloria Mundi, quand l'emploi devenu précaire devient un principe de survie, quand l'ubérisation de la société vient broyer ce qu'il reste de solidarité collective et plus grave encore, de morale collective.
Si nous, entre nous, on ne se tient pas les coudes, tout disparaît. Mais le plus important, c'est s'entraider.
Mais cette entraide qu'Ariane Ascaride appelle de ses voeux avec désarroi sur l'écran de cinéma ne ressort-elle pas aussi, Wendy, des images d'actualité des dernières heures? Lorsque l'on découvre ces milliers de lycéens et d'étudiants, si peu motivés par le combat opaque, lointain et tellement syndical des retraites, prendre la tête de certains cortèges. Lorsque l'on voit ces dizaines de milliers de jeunes mobilisés vendredi dans les rues madrilènes au moment où débute la COP25, entraînant des anciens dans leur sillage, eux qui ont déjà fait le choix, loin des banderoles et des syndicats, de changer de vie, de consommation, d'alimentation, donnant à tous une leçon de ce qu'est le vrai combat pour changer le monde. Quand on voit aussi l'ancien, le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand, 73 ans, qui a sillonné la planète avec ses 6 dispendieux hélicoptères, annoncer cette semaine qu'il ne prendra plus jamais l'avion, convaincu par celle qui pourrait être sa petite fille, Greta Thunberg. Lorsque l'on voit aussi, Wendy, ces jeunes femmes à Santiago du Chili qui transforment une classique manifestation en véritable happening, une chorégraphie qui va être, grâce à la vidéo, reprise dans le monde entier, de Paris à Berlin et à Londres. Cela peut vous paraître peut-être un peu lointain du combat qui se joue dans les rues de France autour du système de retraite à l'ancienne. Mais peut-être pas tant que ça, finalement. Et si de Santiago à Paris, en passant par Alger, de nouveau envahi hier par une marée humaine, ce n'était pas tant à une convergence des colères à laquelle on assistait, mais à une convergence des générations, attelant le combat sur le net et le combat dans la rue, le combat 2.0 et le combat des banderoles, porté par un besoin vital d'équité, qu'il s'agisse de vivre avec sa retraite ou de survivre sur sa planète.
François Claus, les temps changent. Merci pour votre humeur en conclusion de ce 18-20.
Et voilà, c'était le grand journal du soir avec
vous. Je vous remercie de nous avoir accompagnés toute la journée et ce soir en particulier Marlène Duret. Je remercie Kevin Ousti que je retrouve dans quelques semaines. Avec Naïma Bencheman, on vous programme un autre 18-20 à partir de samedi prochain. Merci cher Fabien Lecoeuvre de votre présence. Et voici Lionel Rousseau qui vous accueillera juste après les infos de Sophie Tussaud à 20h. Bonsoir Lionel,
bonsoir. Wendy, avec un joli programme. Il y a le match ce soir évidemment entre Marseille et Bordeaux, très intéressant, même si côté marseillais, Benedetto est forfait, on l'a appris il y a quelques instants. Et puis on parlera aussi de Neymar, très agaçant mais tellement brillant.
Merci beaucoup, soyez prudents, bon courage dans ces grèves qui s'annoncent, portez-vous bien et à très vite.